Bon midi, Québec. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101, celle qui suit toujours le point de max de 10h à midi qui précède le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Vous avez entendu Audrey dans l'open mic. Vous allez l'entendre à nouveau dans le retour de Gravel. Elle est toute heureuse et de retour de voyage. La vie est belle pour Audrey Pinchot. Puis elle mérite d'avoir une belle vie. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Ben absolument. L'énergie après vacances, hein?
Oh, oui, toujours. Fait du bien. Exactement. Toujours cette belle énergie. 418-971-1021 pour interagir avec nous. On sait que vous aimez le faire et on aime vous lire. On aime interagir avec vous. Donc, n'hésitez jamais à nous texter, évidemment, dans des endroits sécuritaires. Textez pas au volant, là. Ouais. Surtout pas. Faites-vous pas attraper par la police. Hey, penses-tu que les policiers vont avoir à un moment donné des jumelles, là, tu sais, comme celles pour les foyers, là? Ils vont dire « Ah! » Ils vont regarder à travers ta portière de véhicule, puis ils vont dire « Ah! Ah! » T'es en train de taper sur son cellulaire.
Écoute, si ça arrive, on va être rendu dans de technologies super avancées que j'espère qu'on utilisera d'autres essais pour commencer.
Parce que, entièrement là, raison.
On a du crime organisé partout. Ouais. On a des jeunes qui se font enrôler dans bien des affaires criminelles.
On vend de la coke sur le web à cette heure.
Exactement.
Au vu et au-dessus de tout le monde, il n'y en a pas de problème.
Donc, je conçois et je suis d'accord avec le fait que le cellulaire au volant soit criminel là, au niveau des routes. Cependant, ça ne me dérangerait vraiment pas que ça soit la priorité 8
Le moment. Ben, les policiers sont pas obligés de mettre ça en priorité 1. En effet, blvd.fm, ça inclut notre web radio, mais surtout les meilleurs moments qui se retrouvent là. Le pit stop, d'ailleurs, qu'on va vivre dans quelques minutes avec Victor Henriquez, va s'y retrouver à la fin de l'émission. Je vous rappelle l'application BLVD102.1 sur les haut-parleurs intelligents. Vous dites écoutez BLVD, twitch.tv/BLVD/FM. Une affaire que j'oublie tout le temps de faire, parce qu'elle s'est levée, la chaîne YouTube, allez vous abonner. Il y a plein de d'émissions intéressantes, de parties d'émissions, mais surtout des podcasts. Et les podcasts des grands événements avec Denis Gravel s'y retrouvent. C'est une série de 5 podcasts tellement intéressants, notamment les deux là, sur la tuerie à la mosquée de Québec, dont celui avec Taeb Moala, qui est très, très, très intéressant. Pascal, Victor est au bout du Zoom, je vais le dire comme ça. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Puis il y a un sujet, c'est sûr qu'on va parler avec Victor. Les États-Unis qui ont intercepté un pétrolier russe, on est-tu de retour dans la guerre froide? Pascal, fais-nous un résumé de ce qui est arrivé là.
Même que le terme qu'on pourrait utiliser, c'est saisi. On est là-dedans. Ça faisait des jours et des jours qu'on suivait le pétrolier russe, en fait. Et là, on est dans la décision et même dans l'action. Donc, on a raisonné 2 pétroliers sanctionnés. Ça, c'est lié au Venezuela que les États-Unis se sont donné ce droit-là. Et c'était des opérations successives, donc menées dans l'Atlantique Nord et une autre dans les Caraïbes. On a annoncé des responsables aujourd'hui. Commandement des forces des États-Unis en Europe qui a annoncé la saisie du navire marchand qu'on appelle Bella One pour... Et on cite « Violation des sanctions américaines ». Ça, c'est une publication sur les réseaux sociaux qui nous l'a appris, OK? Et ensuite, on a poursuivi le pétrolier pendant le mois au complet. Et c'est là où on a des discussions aussi à se demander, bon, pourquoi est-ce qu'on a pris action maintenant dans ce cas-ci? Probablement qu'il y avait un genre de plan, stratégie qui était mise en place depuis beaucoup plus longtemps. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tenté de contourner le blocus américain, selon toujours les Américains, donc qui était imposé aux navires pétroliers au large du Venezuela. C'est pour ça qu'on est dans une sanction préétablie par les États-Unis. L'armée américaine a ensuite remis le contrôle, par contre, aux autorités compétentes. Et c'est là où ça va pouvoir faire un changement dans cette saisie-là, mais c'est quand même sous couvert d'anonymat, donc on n'a pas beaucoup d'informations. On évoque peu de détails dans les opérations militaires sensibles comme celle-là, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait beaucoup réagir. Mm-hmm. Donc, le navire, anciennement appelé Bella One, a été rebaptisé Marinera, déjà.
OK.
Pavillon russe, selon les bases de données maritimes, comme je vous disais. Et il y a un responsable américain qui a aussi confirmé que l'équipage avait peint un drapeau russe sur la coque.
On va en parler avec Victor Henriquez dans quelques instants. Sinon, plus près de chez nous, Pascal, qu'est-ce qu'on suit?
Oui, quelques petites choses en fait dans l'actualité. La population est vieillissante, ça fait longtemps qu'on en parle. On le sait, on le vit. Mais les hôpitaux de Chaudière-Appalaches sont sous pression face à cette problématique-là. On en jasera un petit peu plus tard à l'émission, mais ça crée énormément de problématiques. Hein. Des hôpitaux qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources qu'ailleurs au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces ressources-là. Mm-hmm. Bien, à part la population qui est vieillissante, bien, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans le contexte où on a besoin de faire rouler l'hôpital en soi, on a beaucoup de problèmes, puis ça, bien, ça augure très mal pour les prochaines années. Sinon, glissement à Rivière-Éternité, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Oui, ça fait 2 ans de ça à peu près.
Oui, 1er juillet 2023, il y avait eu plein de pluies torrentielles sur un court laps de temps et ça avait entraîné des glissements de terrain et ça avait coulé sur la route qui menait au Parc national du Fjord du Saguenay. Malheureusement, ça a causé un blessé grave et tragiquement, 2 morts.
Oui.
Et là, un peu avant la tragédie, on savait que les victimes avaient quitté les voitures pendant quelques instants pour dégager la voie. Là, c'est un geste qui était nécessaire à ce moment-là pour pouvoir poursuivre leur route. C'est ce qu'écrit le tribunal. Mais là, la SAAQ a finalement considéré qu'on allait les indemniser. Mais ça a été des années quand même très difficiles pour ces gens-là, pour les survivants aussi. Mm-hmm. La SAAQ a plaider que ce geste-là suffisait pour considérer que l'usage avait été interrompu et qu'au moment du glissement de terrain, les victimes ne faisaient pas usage d'une automobile. Fait que c'est pour ça qu'on se battait. La SAAQ disait non, ils n'étaient pas à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, ils ne prenaient pas place, fait que c'est pas à nous de les indemniser. Puis le tribunal administratif du Québec, ben là, a rejeté l'argument. C'était une décision de 20 pages. Puis quand on analyse tous les faits, on conclut que les 6 personnes en cause ont tous été victimes d'un accident d'automobile au final.
Je sais qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais ça me sidère toujours de savoir que la SAQ va se battre contre des survivants d'un glissement de terrain qui s'est produit sur nos routes. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, on dépense les yeux fermés pour un système comme Saclic qui ne fonctionne pas. Ça va toujours me sidérer. Puis je sais qu'il ne faut pas mélanger là, ces deux départements.
Non, mais je comprends très bien ta vision là-dedans. Je veux dire,
mais ça reste la même organisation.
On s'obstine pourquoi, finalement? Pour c'est des ça. Pacotés, mais c'est qui paye? Ben, c'est l'humain derrière.
Exactement, c'est l'humain. Et surtout que la SAAQ a justement des fonds déjà réservés pour indemniser les gens. Donc, je vois pas pourquoi on a livré cette bataille-là pendant 2 ans et demi avec des gens, justement, qui sont endeuillés ou qui sont gravement blessés là, de cet incident. Une petite dernière pour la route.
Oui, en nouvelle, toujours, parce qu'on est dans ce bloc-là avant de passer à Victor Henriquez, notre analyste politique qui est bien en place.
Oh oui.
Ce que je peux te dire, c'est que ça fait beaucoup jaser aussi la nouvelle configuration des sièges dans les avions. OK, là, tu te dis, oui, on va dire ça.
Ouais, on va dire, parle-moi de ça.
Mais on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est comme le problème actuellement qui fait réagir sur les réseaux sociaux les voyageurs. C'est que WestJet a une nouvelle configuration pour les sièges, OK, à l'intérieur, là, celui dans lequel vous... vous asseyez, puis tout ça. Le transporteur traverse, on peut faire rire avec ça, une genre de zone de turbulence, là, parce qu'il a entrepris de réduire l'espace des jambes pour les passagers.
Hey, c'est déjà... T'es déjà pogné dans un avion, puis honnêtement, je ne l'ai pas pris si souvent que ça dans ma vie. Là.
Fait que là, on réduit la place pour les jambes, mais on installe aussi des sièges qui sont non inclinables. Et ça, pour la classe économique, donc la classe que tout le monde prend.
Ouais. Fait qu'un voyage outre-mer ou normalement...
Mais c'est dans les Boeing 737 qu'on va le faire.
Mm-hmm.
Mais tu sais, les vidéos qui sont sorties, là, je ris, mais je ris jaune, là. T'as pas de place. Puis c'est pas des gens qui sont en surpoids, c'est pas des gens qui sont en grandeur exceptionnelle. On n'est pas dans le joueur de football, mettons. Mm-hmm. Ils sont pognés, là. Puis la vidéo montre littéralement les passagers hyper serrés contre le dossier du banc. Imaginez si... Celui qui est assis à côté de toi veut aller à la salle de bain. Comment est-ce que tu passes pas? Et les prix des vols ont énormément augmenté. C'est tout ça qu'on essaie d'aller colmater du côté des compagnies. On a augmenté aussi le prix des hôtesses, des dollars, des agents de base, devrais-je dire. Les pilotes étaient en grève aussi. Mais ça avait été annoncé en septembre 2025. On avait l'intention de reconfigurer les sièges des 43 Boeing 737 pour ajouter une rangée. Mais là, on a vraiment segmenté la cabine en plusieurs catégories pour offrir un genre de nomenclature des prix. Là. Fait qu'on ventile un peu, puis on dit, ben vous autres, si vous voulez plus de place,
nous permettre d'encorder plus.
Mais il y a aussi une limite, puis je pense qu'on a atteint cette limite-là, puis WestJet ne fait pas l'unanimité.
Ouais, ça va être à suivre, parce que j'imagine que refaire une configuration, ça ne doit pas nécessairement être évident.
Non.
Donc, est-ce qu'on a fait une erreur, justement, stratégique, marketing opérationnel du côté de WestJet? Je serais porté à dire oui.
Il y a des auditeurs qui disent « Bientôt, on va être debout à tenir un barreau, puis avec trois poules.
» Comme dans le transport.
Dans le bagage au tino.
Non, j'espère qu'on ne sera pas rendu là. Non, c'est un autre auditeur aussi qui vient d'écrire ceci. On passe immédiatement au caucus avec Victor Henriquez.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
C'est Victor Henriquez qui est avec nous pour cette semaine. Antonin Iaccarini sera de retour la semaine prochaine à son poste. Elle est en vacances. Victor, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Mais Victor, est-ce que j'ai raison d'être inquiet? Parce que là, quand je vois que les Américains veulent mettre la main totale sur le pétrole vénézuélien, on va jusqu'à saisir un pétrolier russe. Et là, on parle de plus en plus d'acheter le Groenland. Je t'étourdis. Il se passe quoi, là? Est-ce que la semaine prochaine, la guerre froide est de retour? Là? Ça déboule donc bien cette semaine avec l'administration Trump.
Il y a du stock, on est juste le 7 janvier. J'ai juste le rappeler à tout le monde. Septième jour du mois, et j'ai l'impression que 2026, c'est déjà très lourd. Jeff, hier, je me posais la question, je me suis dit, après la discussion, je me suis dit, OK, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète ou pas? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Je me suis rendu compte d'une chose. La première, c'est qu'il semblerait que les Américains ont décidé de durcir le ton en général. Mm-hmm. On va parler dans quelques instants plus précisément de ce pétrolier russe. Mais là, le document de la sécurité intérieure qui est sorti au mois de décembre est devenu un peu la bible d'action des Américains.
Oui, là que la Liberté nous disait hier, puis enseignant en histoire des Amériques depuis 30 ans au Cégep Garneau, spécialiste dans les médias, il disait « J'ai jamais vu de mon vivant les Américains être aussi hostiles envers leurs compatriotes américains. »
Ben, c'est exactement ça. Hostile envers les compatriotes, hostile envers les alliés. Je serais curieux d'entendre Luc sur ce sujet-là parce que je me suis posé la question. Tu sais, hier, tu m'as demandé est-ce que tu étais inquiet. Puis je me suis dit, crime, je suis pas assez inquiet, je pense. Puis ce que je me rends compte, c'est que cet impérialisme américain, ça fait quand même plusieurs dizaines, décennies qu'il existe envers d'autres pays. Donc, tu sais, moi, je me souviens, quand je suis né, ben, les Américains étaient au Chili. T'sais. Puis à l'époque, on nous disait, on nous l'apprenait en histoire, c'est des navires américains qui étaient à l'extérieur quand ils ont implanté la dictature. Ils étaient en Argentine, il y avait l'école de la torture au Panama. Donc, ils ont déjà, être dans les Amériques pour les Américains, puis faire de l'impérialisme, ça a toujours existé. Mais là, on dirait qu'ils le font également envers leurs alliés. Et c'est là où ça a changé. C'est qu'à un moment donné, tu avais l'impression que si tu étais du bord des Américains, ben, ils te laissaient tranquille. Mm-hmm. Et là, finalement, ils ne laissent plus personne tranquille. Mm-hmm. Et la dernière preuve, c'est cette saisie d'un pétrolier russe. Puis on se rappelle à quel point on a toujours dit « Poutine et Trump, c'est des amis. Ben, » Moi, quand j'ai un ami, je ne vais pas saisir son bateau.
Non, mais là, on en profite vraiment parce qu'on parle de ressources économiques, de ressources naturelles qui amènent tellement d'argent au bout du compte. Par contre, moi, ce qui me surprend là-dedans, puis j'avais une petite discussion avec des collègues avant d'entrer en onde. J'aimerais ça jaser avec vous, les auditeurs puis les gars. Il y a quelque chose qui se définit, par contre, d'hyper important. Dans le fait où on s'est attaqué au Venezuela, OK, dans l'angle mort, Chine et Russie, parce qu'ils faisaient leurs affaires là-bas. Mais c'était pas direct. Là, c'est direct. On dit « Bonjour, on ne tolérera pas votre pétrolier et votre affaire et vos affaires économiques. Nous sommes là et nous voulons le contrôle. » Là, tu regardes Vladimir Poutine en pleine face en faisant ça, puis tu lui dis non. Ça vient faire en sorte que les pays européens vont regarder ça. Puis pour eux, ça n'a jamais été leurs alliés puis leurs préférés, là, la Chine, la Russie. Donc, ils n'étaient pas propices à défendre ces deux pays-là. Mais Donald Trump vient jouer dans une table où on va se poser la question, finalement, c'est qui dépasse les limites? Et pour la première fois, on va se dire, ben ça sera les États-Unis. Mais habituellement, ce sont nos alliés dans cette façon moderne et occidentale de voir les choses et dans le respect du droit international, pour la plupart des fois. Il y a eu des événements quand même à considérer, mais on vient brasser les cartes. Hey, en tant que pays européen, ils vont se poser la question, crime, va-t-il falloir qu'on défende la Russie puis la Chine dans pas long si jamais les États-Unis continuent d'agir comme ça?
Oui, puis il y a deux choses qui se posent. Je trouve ça super intéressant ce que tu amènes parce que il y a cette question-là de dire est-ce qu'on est en train de tomber dans une nouvelle période de la guerre froide parce qu'on va devoir choisir un camp. Mais il faut quand même préciser aussi que ce pavillon-là, et tu le disais quand tu présentais les nouvelles, Pascal, il a été suivi pendant 21 jours. Tout le mois de décembre, on a suivi le pavillon, il a essayé de contourner le blocus américain à l'Atlantique, puis là, il a remonté vers l'Atlantique Nord, on l'avait identifié au large de l'Irlande, et là, il était proche des terres islandaises, puis il s'en allait tranquillement vers la Russie. Ultimement, on l'a saisi avant qu'il rentre dans des eaux territoriales russes, puis qu'on soit sur un terrain où est-ce qu'on ne veut pas s'engager. C'est drôle parce qu'en face de ce territoire-là, je regardais ma map du monde et je me disais, mon Dieu, en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Groenland en face de ce territoire-là. Mmh. Alors, c'est particulier aussi parce qu'on est aussi en train de faire des démonstrations graphiques dans tout ça.
De territoire.
En saisissant un bateau sur un territoire, on le fait dans l'Atlantique Nord. Et moi, je pense que, tu sais, je suis un gars de communication, j'adore les coms, mais j'ai toujours dit, hein, tout est communication. Les symboles sont extrêmement forts dans le monde politique. Moi, je pense qu'il y a un symbole dans la saisie d'un bateau en Atlantique Nord. C'est qu'on est en train, du côté des Américains aussi, de justifier la prise de contrôle de cet espace-là. Parce que les Américains disent « je veux le Groenland » parce que le Groenland a une frontière au nord avec la Russie puis la Chine, qui est dans le fond cette fameuse frontière arctique que le Canada défend également. Et le Groenland est un passage obligé vers mon continent. Donc, je dois le contrôler parce que je dois m'assurer de pouvoir contrôler tout ce qui se passe devant ce territoire-là.
On est en train d'amener l'argument de la sécurité nationale avec cette saisie de pétrolier-là aujourd'hui. Donc, il n'y a rien, tout est pensé
mais
dans
c'est joué
cette
sur la
stratégie-là.
Ligne.
Je ne me trompe pas, Victor?
Tous ceux qui pensent qu'on est dans l'improvisation ou dans la démonstration de force sont dans le champ. Tout ça est réfléchi, tout ça est planifié. C'est de la stratégie militaire. D'après moi, c'est un an d'organisation depuis l'arrivée de Donald Trump. Puis, il y a des gens extrêmement brillants en stratégie militaire qui sont en train de travailler là-dessus. Donc là, on a saisi ce pétrolier russe, on a saisi dans les Caraïbes. Et là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'à partir de maintenant, le blocus américain, vous le respectez ou on saisit vos bateaux. Puis, historiquement, ça vient nous rappeler des années très troubles, des années de guerre froide. Ça vient nous rappeler les années de la crise des missiles, par exemple. Rappelez-vous cette fameuse crise, parce qu'on a dit, on est passé à un cheveu d'une guerre mondiale à l'époque avec Kennedy.
Les Russes s'étaient établis à Cuba, justement, pour avoir un angle d'attaque sur les Américains.
C'est exactement ça. Donc, on est dans tout ça. La différence aujourd'hui, c'est que, et moi, c'est là où j'ai des inquiétudes aujourd'hui, si j'étais du côté des Européens, je m'inquiéterais énormément, c'est que pour Donald Trump, il y a des zones d'influence géographique. Donc, lui, il dit « l'Amérique, c'est à moi ». OK, gang, vous ne touchez pas l'Amérique. Donc, du Groenland à l'Alaska, de l'Arctique jusqu'au Cap Horn, ça, c'est à moi. Je fais ce que je veux là-dedans, puis je veux des alliés dans tout ça. L'Europe, on se demande c'est à qui. Et la Russie a sa zone, puis la Chine a sa zone. Donc, Taïwan... Oubliez ça, les Américains n'iront pas défendre Taïwan si on suit cette théorie-là. Pas sûr qu'ils défendraient le Japon non plus. Et du côté des Européens, là, la question se pose. Est-ce que Donald Trump va aller vouloir de son bord ou est-ce que les Européens vont finir par tomber dans le giron russe quelque part dans la vision de Donald Trump? Ou est-ce que les Européens vont créer leur propre zone d'influence aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des forces de frappe intéressantes et il y a un marché qui est très important en Europe. Donc, dans cette définition d'un nouvel ordre mondial et d'une nouvelle façon de s'organiser, on voit des grands blocs ressortir. Ce n'est pas nouveau en passant ces grands blocs-là. Les historiens pourront l'expliquer beaucoup mieux que moi. Là. C'est des blocs qui ont toujours existé, même à l'époque des empires. C'est issu de tout ça. Mais ça reste qu'on ne l'a jamais vu de façon aussi claire de la part d'un président américain.
Mais c'est fascinant. Puis tu sais, je le disais d'entrée de jeu dans la nouvelle, c'est un plan qui semble préétabli, qui semble réfléchi par rapport aussi à cette façon-là de jouer sur la ligne. Hein. Tu sais, au Venezuela, au départ, on parlait de ne pas avoir besoin de la permission du Congrès parce que ce n'est pas un acte de guerre, c'est simplement une libération d'un pays, c'est une libération de peuple. Finalement, il est allé crier haut et fort qu'il voulait le pétrole. Là, qu'est-ce qui va arriver aussi au sein même de son pays? Tu sais, on parle de tout ce qu'il y a à l'international, mais au sein des États-Unis, ça doit ruer d'un brancard là, parce qu'il n'y a pas eu l'approbation de ses pairs, il n'y a pas eu l'approbation de ceux qui devraient prendre certaines décisions. Il est en train de revamper son pays et le monde actuellement. Ça va brasser pour Donald Trump.
Ça va brasser pour Donald Trump. Puis il y a une chose qui va calmer Donald Trump, c'est les élections de mi-mandat approchées. C'est pas pour rien qu'on fait ça en début d'année en passant, hein, parce que la mémoire collective, elle est de plus en plus courte. Moi, je suis convaincu que Donald Trump a un coup à donner dans sa politique internationale pour montrer qu'il gagne. Hein, oubliez pas, Donald Trump, il gagne ou il gagne. Même quand il perd, il gagne. Dans sa théorie, à lui, là, puis écoutez les films à son sujet. Il n'y a pas de surprise avec Donald Trump.
Il n'a jamais perdu les élections de novembre 2020.
Non, il ne les a pas perdues, il les a fait voler. À la base, là, c'est ça dans sa théorie. Et il y croit de toute façon. Là. Alors, sa théorie, c'est que de toute façon, la réalité, c'est quelque chose qui est perceptuel et que plus tu répètes ta réalité, plus elle va devenir la vérité. Donc, à la base, Donald Trump est en train d'agir aussi parce que la seule chose qui peut le calmer, c'est cette question des élections de mi-mandat. Elles viendront en novembre 2026 et on verra d'ici là quelles seront les victoires qu'il pourra mettre sur son tableau de chasse.
On a pris des dispositions dans le passé, après les guerres mondiales, après bon tout ce qui est... l'époque de la guerre froide. Puis on s'est dit, on va serrer la main sur une coupe d'entente, puis cette entente-là, il va falloir la respecter. Ce sera une entente de parole, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Hein. Il n'y a pas le grand bon Dieu de l'international qui est là en tant que juge, puis qui frappe sur son petit socle. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est en train de voir s'effriter ou démolir le droit international en ce moment, Victor, selon toi?
On est en train, pour moi, on est en train de montrer les limites du droit international. Le droit international, il fonctionne dans une majorité de cas, sauf, puis ça je l'ai dit l'autre jour, sauf quand il est violé par des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a un droit de veto sur toute mesure coercitive qui est prise par les Nations Unies. Donc là, ce qui arrive, c'est que le droit international, celui qui le fait respecter, c'est l'ONU. Mais à l'ONU, le Conseil de sécurité, il décide les mesures qui sont prises. Dans le fond, l'Assemblée générale de l'ONU a fait des recommandations au Conseil de sécurité. Et là-dessus, il y a des membres permanents, dont les États-Unis, qui ont un peu cette espèce de droit de veto de dire, ben, même si vous me recommandez de prendre des mesures, ben, je peux ne pas les prendre.
Ouais.
Donc, ces gens-là ont comme une carte joker où est-ce que lorsque c'est eux qui sont concernés, ben, ils ne voteront pas des mesures qui vont les mettre dans l'embarras. Donc, le droit international s'applique, mais s'applique aux pays qui sont à l'extérieur de cette zone principale d'influence. Puis la planète a quand même fonctionné comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Puis je me trompe dessus par rapport à l'ONU aussi. Si on avait à condamner, par exemple, un chef d'État, un président, un dictateur, peu importe qui, prenons Vladimir Poutine, parce que ça a été dans les discussions lors de l'invasion en Ukraine. On surveillait beaucoup ce qu'on allait faire au niveau de l'ONU. Au moment où on se dit, oh non, non, lui, bon, on a des accusations contre le droit de l'homme ou je sais pas quoi, tant qu'il ne sort pas de son pays, on peut rien faire.
Et même s'il sort, il faut que quelqu'un l'arrête. Je vous donne le meilleur exemple là-dedans, c'est Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, est sorti pour aller où? Est sorti pour aller aux États-Unis, en sachant que les États-Unis
ne
l'arrêteront pas.
Exactement, il est allé trois fois à la Maison-Blanche.
Tu vas là où on ne t'arrêtera pas. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent, pas juste dans le cas d'Israël, dans le cas de multiples dictateurs qui sont allés s'héberger ailleurs. Je veux dire, je pense par exemple aux Duvaliers qui sont allés en France. Je pense à Jean-Bertrand Aristide qui est allé à l'extérieur aussi. Je pense à Pinochet en Angleterre. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Alors, vous savez, là, à ce moment-ci, les gens qui ont regardé... on a tous suivi nos cours d'histoire en se demandant est-ce qu'un jour ça va nous servir à quelque chose. Voici le moment où ça nous sert beaucoup. C'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qu'on vit qui se sont soit déjà déroulés ou qui partiellement ont déjà été vécus par d'autres. Et ça doit nous rassurer aussi. On a une stabilité qui vient beaucoup de nos économies. Parce que oui, on parle beaucoup en ce moment de la politique internationale sous l'angle du droit international puis de la géopolitique. Il faut quand même se rappeler que tout ça est issu d'une volonté économique. Volonté économique de contrôler le pétrole vénézuélien, plus grande réserve de pétrole non exploité au monde. D'ailleurs, on sait que le secrétaire d'État à l'énergie est allé rencontrer des gens d'affaires à Miami pour leur dire qu'ils auront accès au pétrole vénézuélien, mais que ça coûterait plusieurs dizaines de milliards de dollars et que ça prendrait plus d'une dizaine d'années à s'installer là-bas. Donc, on est dans le long terme, mais on est dans des deals business. Et je rappelle à tout le monde qui nous écoute, rappelez-vous, Donald Trump nous a dit « Je veux faire de l'Amérique, rendre l'Amérique grande à nouveau. » Et il y a cette nostalgie-là de revenir à une Amérique qui contrôle entièrement son continent.
Ben, c'est de la politique transactionnelle et non pas de la politique relationnelle. Et parlant de ça, Mark Carney s'en va faire de la transaction. Première visite d'un premier ministre canadien en Chine depuis 2017. Carney va mettre les pieds en Chine ce week-end. Qu'est-ce qu'on doit surveiller de tout ça? Parce que la Chine, c'est les grands ennemis économiques des Américains. Les Américains jouent la carte de la sécurité nationale présentement avec le Venezuela en tentant de retirer la Russie et la Chine. Est-ce que c'est judicieux? Moi, je te dirais que oui, parce qu'il faut diversifier notre économie plus que jamais. Mais en même temps, les relations vont peut-être être encore plus tendues avec les États-Unis.
Ben, ce sera de voir qu'est-ce qu'on va aller discuter. Parce que Mark Carney aille en Chine, je pense pas que Donald Trump va nécessairement apprécier, mais je pense pas que ça va l'amener à parler d'invasion du Canada, par exemple, ou du fait qu'il faut contrôler. Mais je vous donne un exemple. Mettons que, par exemple, Mark Carney décide de mettre fin au fameux tarif sur les autos chinoises. Mm-hmm. Hein, on a vu à la fin de l'année, on a appris, par exemple, que BYD est maintenant le plus grand vendeur d'autos dans le monde, qui a dépassé Tesla. BYD, une compagnie chinoise, collabore notamment avec Volkswagen. Et on sait qu'au Canada, on a des tarifs de 100% sur les autos chinoises. Ce qui fait que les autos chinoises qui sont très accessibles ailleurs ne sont pas accessibles du tout ici, puis que les Chinois ne sont pas installés. Qu'est-ce qui arriverait si Donald Trump, par exemple, si Mark Carney venait faire une entente avec les Chinois, on abolissait ces tarifs? Là, je pense que Donald Trump pourrait dire « Attendez, attention, vous laissez rentrer les Chinois chez vous, c'est une question de sécurité nationale. » Et là, on commencerait à avoir ce discours-là. Maintenant, Mark Carney fait un move extrêmement intéressant parce que ça reste que la Chine, c'est le deuxième plus grand marché pour le Canada. C'est la deuxième économie mondiale. Ne plus avoir de relations avec ce pays-là, c'était une catastrophe. On avait vu depuis 2017, hein, ça va faire quand même
9 ans.
9 ans. Ben, ça fait 8 ans et demi, 9 ans qu'on n'aurait pas eu de visite là-bas. Alors, cette visite-là, elle sera importante, elle passera des messages. Mais je ne suis pas sûr qu'on va aller très, très loin dans les ententes. Rappelez-vous, alors, à l'époque, là, ce que Justin Trudeau était allé faire la dernière fois en 2017, c'était d'essayer de négocier une entente de libre-échange avec la Chine. Et après ça, il y a eu l'arrestation de la vice-présidente de Huawei à Vancouver à la demande des Américains, l'arrestation de DeMichael, puis on avait complètement refroidi les relations. On repart de très, très, très loin pour le Canada avec la Chine. Alors, je ne suis pas inquiet pour cette première visite, mais je suis convaincu que dans les bureaux canadiens, on se prépare à agir avec beaucoup de prudence sur cette relation avec la Chine pour ne pas réveiller l'ogre Trump au sud de la frontière.
Oui, et c'est très stratégique quand c'est genre une couleuvre qui se faufile en ce moment, deux murets, sans être trop vu. En même temps, ça va faire le tour du monde, cette rencontre-là. Moi, je me demande toujours comment est-ce qu'ils vont faire pour allier entente économique, mais protéger la sécurité canadienne sur tous les pans possibles, au niveau technologique surtout. T'en penses quoi, Victor?
C'est toujours un grand défi, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se rende à une évidence aussi. Hein. Oui, on doit protéger la sécurité canadienne, on doit protéger de l'ingérence des pays étrangers, c'est tout à fait important. Mais ça fait combien d'années que nos produits viennent de Chine? On consomme des produits chinois en quantité industrielle. On laisse la Chine rentrer dans nos économies. La Chine est devenue l'usine de fabrication de la planète au complet. Et c'est toujours un peu surprenant quand on se rend compte qu'on commande du Chine, on achète du Timu, on est partout dans ces relations-là. Alors, je pense qu'il va falloir s'adapter. C'est la deuxième économie au monde. C'est peut-être même dans le futur la première puissance mondiale. Ils ont une masse critique de gens. On a des ressources qui sont intéressantes pour eux. Il faut qu'on fasse du commerce. On a souvent parlé des droits de l'homme aussi en Chine. Mais dans une politique, tu le disais, Jeff, dans une politique qui est transactionnelle plus que relationnelle, ben, il faut que tu ailles faire des deals. Parce que si tu ne fais pas des deals avec les Chinois et qu'en plus, ouais, les Américains te tiennent par la gorge, ton économie va souffrir.
Puis là, Victor, ben, souvent, ça t'amène justement à fermer les yeux sur les valeurs qui animent ton pays et tes politiques.
Oui, ça t'amène à fermer les yeux, mais on le fait depuis longtemps, ça aussi. Je veux dire, on signe des deals avec l'Arabie Saoudite, parce que les droits, ouais, de l'homme, on s'en passe un peu. On a signé des deals avec de nombreux pays qui ont des dictatures, puis on passe nos vacances à Cuba, par exemple. Puis il faut quand même se le rappeler, à Cuba, il y a une dictature qui dure depuis les années 60. Alors, c'est là où on s'en va à la plage, on trouve ça bien le fun, on amène des produits aux Cubains, mais ultimement, ces gens-là sont sous une dictature depuis 60 ans. Donc, c'est pas seulement les gouvernements, hein. On fait tous un peu ces sacrifices-là pour notre bien-être.
T'as raison.
On le vit constamment. Alors ça, là-dessus, je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Puis, vous savez, il y a un truc qui m'a frappé ce matin, c'est que Donald Trump est extrêmement honnête dans sa politique internationale. Il ne nous a pas dit « je m'en vais chercher des armes de destruction massive » comme George Bush avait fait en Irak. Il nous a dit « je m'en vais chercher le pétrole vénézuélien ». Tu parlais de la paix au Venezuela. Ça, après ça, c'est la responsabilité des Vénézuéliens de saisir l'opportunité pour mettre en place une démocratie. Mais cette honnêteté-là, elle est aussi intéressante parce qu'elle va changer nos relations. Elle va amener nos relations à être plus franches. Je pense que comme citoyens, si on veut que nos politiciens nous disent la vérité, il faut qu'on accepte aussi la vérité telle qu'elle est. On est dans une planète parce qu'on a fait beaucoup de transactions avec des gens qui ne sont pas nécessairement comme nous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas été gagnant d'une certaine façon.
C'est un bon point. Parlant de relations franches, on a Charles Milliard en entrevue, Victor, dans à peu près une douzaine de minutes. Qui va être assez franc dans les libéraux pour dire à Mario Roy, « OK, c'est beau, mon ami, t'es pas obligé de te présenter à la course à la chefferie. Charles Milliard a 200 jeunes en arrière de lui. On va le couronner, puis on repart ça en grand du côté des libéraux. »
Moi, je vous invite à demander à Charles Millière s'il va prendre le téléphone puis il va appeler Mario Roy pour essayer de le convaincre de ne pas se lancer en course.
On
parce
pose
que
la question, Pascal,
poser
avec
la question,
plaisir.
Je la poserai la question parce que j'ai entendu les entrevues de Charles Millière. Il y a deux choses. C'est en train de bouger très, très vite chez les libéraux. Je vais faire un résumé très rapide. Hein. Alors, on a Charles Millière qui a annoncé qu'il se lançait dans la course, qui avait fini deuxième, au-dessus de 40 % du vote. Ça avait été une course très serrée, plus serrée que ce qu'on pensait. Et il s'était quand même fait un nom auprès des militants libéraux. Ce matin, sort une lettre avec 200 jeunes libéraux qui disent « Nous appuyons Charles Millière, ça prend un vent de changement, etc. etc. » Charles Millière a 46 ans, Paul Saint-Pierre-Plamondon a 48. Nouvelle génération. Et chez les libéraux, 200 jeunes, c'est important. Parce que Robert Bourassa avait déterminé à l'époque, dans la Constitution libérale, qu'un chef au Parti libéral devait être choisi avec un tiers des votes entre les mains de la jeunesse. Donc, les jeunes de moins de 25 ans au Parti libéral ont un tiers du vote au leadership. Ce qui veut dire que si tu as les jeunes de ton bord, c'est comme si tu partais avec un départ lancé. Et ça, Charles Millière, il y a les jeunes de son bord en ce moment. Et finalement, Yves Desjardins-Siciliano, qui est l'autre candidat qui a dit « Oui, je suis intéressé », ben lui, il attend d'avoir une organisation. Et là, il y a des gens qui étaient avec Pablo, qui étaient avec Carl Blackburn, qui sont peut-être en train de s'organiser. Mais là, est-ce qu'on veut vraiment que ces gens-là s'organisent après ce qui s'est passé? Est-ce que les libéraux vont vouloir ça? Je ne suis pas convaincu. Puis je pense que Yves Desjardins-Siciliano, il est un peu prudent. Il dit ben, « ça peut m'intéresser, mais je ne suis pas sûr que ça, je vais y aller ». Donc là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a beaucoup de prudence là-dessus. Guy Cormier, c'était tiède, ça refroidit de plus en plus, surtout avec la sortie des jeunes. Et là, ce qu'on se dit, c'est ben, « allez-vous vraiment niaiser avec une course pendant un mois et demi ou vous déclarez un chef pour laisser Charles Millière aller se promener au Québec? » Charles Millière commence à le réclamer de plus en plus ouvertement, d'ailleurs.
Puis il était très bon là, pour la dernière campagne, honnêtement, il s'est promené puis il s'est fait voir en région, c'en étant qu'il s'est énormément promené. Victor, est-ce que ça pourrait être mal vu de demander à M. Roy « pouit, pouit, tasse-toi, merci ».
Ben, je pense que c'est pour ça que la question se pose, mais la question se pose à savoir est-ce que vous allez essayer de le rallier, hein? Parce que ça peut être mal vu, oui, d'aller mettre une pression. Puis ça, là-dessus, il faut faire très attention. Il y a une différence entre appeler Mario Roy puis lui dire « Hey, j'aimerais ça qu'on se parle, parce que je pense que pour le parti, c'est peut-être une bonne idée qu'on discute, puis qu'on voit si on a des éléments en commun, puis de laisser M. Roy prendre sa décision, que d'arriver, puis de lui faire un appel, puis de lui faire une offre pour qu'il se retire. » Il y a un monde entre les deux. Mais moi, je pense qu'il y a une conversation qui doit s'installer chez les libéraux. Je pense qu'il y a des gens qui doivent appeler M. Roy puis dire « Hey, Mario, ça a été super que tu sois dans la campagne, mais penses-tu vraiment que c'est le bon move à faire à ce moment-ci? Puis, tu sais, si tu veux te présenter, peut-être que tes énergies devraient aller là-dessus. » Il y a finalement le fait aussi que pour être capable d'être candidat, il faut qu'il rembourse sa dette passée
ben oui.
avec des dons à 500 $. Il restait 18 000 $ à rembourser avec des dons à 500 $. Ben, ça va lui prendre 36 personnes qui donnent 500 $ au minimum
bonne
pour être
chance.
Capable de rembourser sa dette. Mais il faut payer 30 000 $ pour rentrer aussi. Donc, ça prend beaucoup de monde avec beaucoup de dons. Moi, je pense que M. Roy a intelligemment fait spinner son nom et est encore dans la discussion. Et ça, là-dessus, bravo, parce qu'en termes de com, son nom maintenant est un nom de plus en plus connu. Ça vient de bien le placer comme un candidat intéressant à la prochaine élection. Mais moi, si j'étais lui, je ferais attention à ne pas tirer l'élastique trop fort parce qu'il risque de lui briser.
Victor, on termine la chronique, le caucus Victor Henriquez là-dessus. Qui va appeler la CAQ pour leur dire qu'ils sont complètement en train de l'échapper, encore une fois, avec le troisième lien? 19 millions en forage, Victor, on cherche encore où mettre ce lien-là, alors que quand tu parles aux gens de la Rive-Nord de Québec et même aux gens qui vivent à Lévis, ils disent « Ben, nous autres, c'était à l'Est qu'on le voulait. Amenez-nous pas. » Puis là, je reprends ton expression de t'ému. Puis Pascal l'avait utilisé avec François Legault. Puis François Legault l'avait vraiment pas compris, là. Mais amenez-nous pas un troisième lien t'ému en quelque part où on le veut pas. Qui va convaincre la CAQ que ça a plus de sens où est-ce qu'ils s'en vont, là?
Les électeurs. Les électeurs de Québec sont ceux qui doivent décider. Puis vous savez, moi, j'ai toujours fait super attention comme gars de Montréal à pas venir me prononcer sur le troisième lien parce que je connais pas assez la géographie. J'habite pas à Québec. Je vis pas le trafic qui vit sur la Rive-Nord. Puis j'aime pas ça quand les gens se mêlent de ce qui les regarde pas. Mais il y a deux choses, par exemple. D'un côté, il y a des spécialistes. Alors, il faut les écouter, les experts. Puis la deuxième, c'est qu'il faut être logique. Puis il y a des coûts également. Là, je comprends pas comment... Ce qu'on est en train de nous dire, dans le fond, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon tracé. Puis vous savez, ce que je me demande, c'est il y avait un tracé qui était celui d'Éric Duhem, qui était vraiment à l'Est. Je me demande si on va pas finir avec ce tracé-là à un moment donné, qui était celui qui passait proche de l'île d'Orléans. Parce qu'il faut se poser la question. M. Legault a ramené ce projet-là en disant « Il y a une question de sécurité pour le Québec de ne pas avoir de lien supplémentaire à l'Est. Si on a un problème avec le pont de Québec ou avec le pont Pierre-Laporte, on se retrouve avec un isolement complet de cette région du Québec jusqu'au pont La Violette. Et même plus loin, plus le pont La Violette, on s'entend qu'il n'est pas parfait non plus. Alors, moi, je trouvais ça intéressant, cette perspective-là. Mais cette perspective-là, il faut y répondre. Je ne suis pas sûr qu'avec ce qu'on est en train de faire comme forage, on y répond à ce moment-ci. Ça va prendre des spécialistes, ça va prendre d'identifier le besoin, ça va prendre des électeurs qui décident de choisir le parti qui va le faire, pas pour gagner des élections, mais parce qu'ils ont les bons arguments puis ils ont le bon plan pour le réaliser finalement.
C'est très bien dit, Victor, même si tu restes à Montréal. Non, je te taquine. Non, mais tu sais, pour faire une histoire courte, les gens le veulent vraiment justement plus à l'Est pour créer un périphérique comme on voit dans les grandes villes là, à travers le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi la CAQ met autant d'efforts à tenter de créer un troisième lien près des deux ponts actuels puis qui débouche à des endroits déjà congestionnés à Québec. Là.
Parce que sinon, Jeff, ils vont être obligés de dire que les conservateurs avaient raison. Et ça, ouais. La région de Québec, c'est peut-être pas une bonne idée pour la CAQ de dire que les conservateurs avaient raison quand tu veux gagner des comtés à Lévis, par exemple.
Tu m'embarques voilà. Dans le cynisme politique, Victor Henriquez. Mais je peux pas croire qu'une décision aussi importante va jouer sur des enjeux politiques et partisans. Mais bon, c'est moi et ma vertu.
Victor, pour vivre dans le rêve.
Exactement. Victor, on se parle demain?
Ouais, à demain.
Salut, à demain. Victor Henriquez, que vous entendez dans le caucus en remplacement d'Antonine Niacarini. L'excellent Victor Henriquez, avec qui on adore discuter. Pascal, on se prépare à recevoir. Ça va être au téléphone. Charles Milliard. Il y a un petit 9-10 minutes pour nous. On va jaser avec lui aux alentours de 12h45. C'est sûr que je lui pose la question s'il va lâcher un coup de fil à Mario Roy. Moi, toi, bref, quand le momentum sera là, on va lui poser la question.
La question Henriquez.
Exactement. Donc, restez avec nous à l'émission On en jase. On va parler avec Charles Milliard. Puis en attendant, Charles Milliard, on fera un petit tour d'actualité et surtout d'actualité sportive. Tiens, on n'en a pas fait encore. Le Canadien de Montréal contre les Flames de Calgary ce soir au Centre Bell. Hey, Seigneur Pascal, tu dois être énervé.
Ah ouais,
As-tu ton chandail pas loin?
Oui, j'ai ça, moi, oui.
C'est ce que je
pensais. Toujours proche.
On parle de ceci après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On est à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Jeff Fortin avec Pascal Séveu. Et avant la pause, je vous disais qu'on va faire un petit peu de sport avant d'arriver de Charles Milliard en onde avec nous. On va avoir un 9-10 minutes avec Charles Milliard. Donc, vous rappelez que le Canadien joue ce soir contre les Flames de Calgary. Les Flames ne sont pas nécessairement une puissance en Ligue nationale, mais se replacent avec 6 victoires lors 10 derniers matchs. 18 victoires et 20 revers à surveiller. Le jeune Dustin Wolf, le gardien de but des Flames, qui avait fait sensation l'an passé à son année recrue, qui se replace drôlement depuis plusieurs match. Il a un pourcentage d'efficacité de 915, donc arrête énormément de rondelles. Ça sera pas facile pour le Canadien. On le sait, Pascal, dans le sport, c'est toujours ça. Quand on revient d'un long voyage, le retour à domicile, des fois, on dirait qu'on manque de jambes. On a fait beaucoup d'avions, beaucoup d'hôtels. Là, c'est comme si on manquait d'énergie.
Donc,
on appelle ça un match piège pour le Canadien ce soir contre les Flames de Calgary. Canadien qui va être en action aussi demain contre les Panthers de la Floride et toujours au Centre Bell.
Est-ce que ce sera de la politique piège qui se trame actuellement au provincial?
C'est...
Parce que ça grouille de partout, entre autres les scandales avant Noël. Le chef conservateur Éric Duhaime qui est en mode électoral. Il vient de présenter son candidat dans Beau-Sud. On est d'avance. C'est Jonathan Poulin officiellement sur qui il mise pour un meilleur résultat pour les conservateurs. Et du côté des libéraux, on essaie de colmater la fuite, la brèche, l'apocalypse, le Pablo Rodriguez Gate.
Oui, exactement.
Avec une nouvelle course à la chefferie.
Oui, nouvelle course à la chefferie. On a le plaisir d'avoir au bout du fil candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Il a terminé deuxième lors de la dernière course à la chefferie qui s'était terminée au mois de juin dernier. Charles Milliard est avec nous. Monsieur Milliard, merci beaucoup pour votre présence.
Bonjour à vous deux.
Monsieur Milliard, question pour débuter avec vous. Est-ce que le Parti libéral est plus mal en point pour cette deuxième course à la chefferie qui ne l'était à la première course à la chefferie après le dernier mot où on a vécu l'épopée des Brownies et des Millefeuilles?
Ben écoutez, on ne jouera pas à l'autruche. Là. Le Parti n'a pas eu un bon mois de décembre. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai pris le temps pendant les fêtes de réfléchir. Je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus réfléchi et posé possible. Et en dépit de tout ça, moi, j'ai toujours la conviction que l'offre politique pas du tout et que le PLQ peut redevenir une force politique. Alors, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et je me présente. Je suis la même personne, mais je voudrais encore plus convaincu qu'il y a un an de l'importance là, en vue de la prochaine élection.
Est-ce que vous aviez des craintes par rapport justement au mot corruption avec ce qui s'est passé dans la dernière course à la chefferie, présentement les différentes enquêtes qu'il y a, il y en a 4 d'ouvertes. Est-ce que ça vous fait peur de prendre les rênes d'un parti où il pourrait avoir des accusations criminelles qui sont déposées?
J'ai pas peur. Je suis attentif à ce qui va se passer. Puis vous savez, en politique, la loyauté c'est important, mais l'imputabilité aussi. Alors si j'aspire à être chef de ce parti-là, je vais assumer toutes les conséquences qui viennent avec. Par contre, moi, j'ai supervisé et j'ai signé mon rapport de campagne de ma campagne. Alors je peux pas parler de tout le reste. J'ai pas toutes les infos. Vous savez que moi j'enseignais à l'université Bishop l'automne dernier. Alors j'ai suivi cette saga-là dans les journaux un peu comme vous. Donc je me présente là-dedans avec l'intention de vouloir. Et vous savez, le Parti libéral du Québec, ça appartient à ses membres et moi, je veux le gérer. Mmh. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est moi qui gère la maison, bien, ça va se passer à ma façon.
Le problème, est-ce que c'était le gestionnaire de la maison ou c'était la maison?
Non, pas nécessairement. Je pense que... Bien, écoutez, on va...
En fait, c'est une question à choix, à deux choix. Est-ce que c'était Pablo Rodriguez ou le Parti libéral?
Ben là, malheureusement, je vais couler la question, mais je vais vous répondre une troisième chose.
Vous êtes bien en politique, M. Milliard.
Oui, non, mais c'est-à-dire que pour l'instant, c'est je ne sais pas, OK?
Oui.
Donc, les enquêtes sont là, et si on voit que des choses qui se sont passées, ben on agira, puis vous me réinviterez, puis je commenterai. Mais c'est pas vrai que je vais commenter des choses dont j'ignore l'existence ou la véracité. Alors ça... Peut-être que mes réponses ne plairont pas toujours, mais c'est ma personnalité aussi.
On comprend la réponse, on vous agaçait, mais quand même, pour nous, on a hâte d'avoir aussi les réponses dans tout ça.
Imaginez-moi.
Vous présentez pour la course à la chefferie. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous avez peur de brûler votre candidature politique? Vous êtes un homme quand même avec un certain charisme, un homme qui est dévoué et qui le veut. Quand ça fait 2 fois qu'on s'essaie et ça ne fonctionne pas, par exemple, ça avait à ne pas fonctionner, pensez pas qu'on est en train de vous brûler pour quand même adhérer à un parti politique et se présenter aux prochaines élections?
C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. C'est une excellente question. Écoutez, moi, je suis... plus convaincu que jamais que je vais remporter cette course-là. Le vent de dos qui souffle depuis un mois et encore plus depuis hier, c'est honnêtement, c'est au-delà de toutes mes espérances. C'est la preuve qu'il y a un besoin pour une autre voix, avec un X et avec un E, politique au Québec. Écoutez, je pense que les gens dans le milieu des affaires, dans le milieu de la santé, de l'éducation maintenant me connaissent depuis 20 ans, donc gang ou père, je vais toujours être la même personne avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Alors, je suis pas inquiet pour l'avenir, mais je suis quand même... je suis confiant. Je pense qu'on a le droit de dire ça dans la vie. Je suis très confiant pour la suite des choses, mais c'est les militants qui décideront et on verra bien.
Vous venez de parler de qualité et défaut. Tiens, je vous pose une question d'entrevue qu'on pose à tous les candidats. Quel est votre pire défaut et pourquoi?
Bon, en tout cas, je suis pas perfectionniste, là, comme les gens disent.
Ouais, ça, perfectionniste, moi, quand je faisais des entrevues, je veux rien savoir de ça. Dis-moi quelque chose d'autre.
Je suis perfectionniste dans un monde qui va aussi vite que le monde politique. Mais mes blagues à part, écoutez, moi, je suis quelqu'un, je suis quand même quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un qui est connecté avec mes émotions. Donc, il y a des aspects positifs, il y a des aspects qu'il faut gérer. Mais quand la maturité embarque là-dedans, ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, mais j'ai bien compris que dans la dernière course, les gens me connaissaient moins. On trouvait que je proposais des idées, que j'étais bien sympathique, mais ils vont aussi découvrir mon petit côté un petit peu plus guerrier. Et quand je décide que je m'en vais à quelque part, ben j'y vais.
Donc, un débat, Paul Saint-Pierre, Plamondon, Charles Milliard, pour avoir de l'émotion et des flamèches, c'est ce que je comprends?
Ben, il va certainement y avoir des idées, parce que même si je les partage pas, on peut pas dire que M. Plamondon n'a pas d'idées, puis... Les idées sont claires, hein? Moi je dis respectueusement, mais le projet péquiste, il est clair, le projet caquiste, il est pas clair. Et le nôtre sera très clair aux prochaines élections. Alors, si les gens veulent déjà réserver leur soirée de débat électoral, ben moi, ça va me faire plaisir d'en faire partie. Mais pour l'instant, faut procéder par étapes. Mais blague à part, moi, je pense qu'on peut avoir de l'adversité avec une certaine complicité en politique. S'il y a des gens moi qui m'ont inspiré dans mon parcours de spectateur politique, c'est bien M. Bourassa, M. Parizeau, hein, des gens qui étaient aux antipodes politiques, mais qui avaient un certain respect puis une envie de proposer des choses au Québec. Ils ont parfois choisi M. Bourassa, parfois M. Parizeau. Alors on verra ce que les Québécois vont faire, mais moi j'ai envie d'une joute comme ça pour 2026.
Il y a une question qu'on va appeler la question Enriquez. Si vous ne connaissez pas l'analyste politique Victor Enriquez, vous allez connaître
oui,
si vous entrez en politique. il collabore avec nous et tantôt, il se demandait, Pensez-vous que vous allez avoir à demander à Mario Roy de se retirer de ses aspirations en tant que chef du Parti libéral pour laisser la place à votre candidature et qu'on passe à autre chose?
C'est pas à moi à prendre ces décisions-là. Écoutez, prendre la décision d'aller en politique, c'est intimement personnel, même si c'est très public. Il y a des règles à suivre. Tout le monde va devoir se conformer à ces règles-là, aux critères. Qui je suis, moi, pour dire que quelqu'un ne devrait pas se présenter à la chefferie du Parti libéral? La seule chose que je dirais aux gens qui veulent se présenter contre moi, ben, c'est juste de prendre la mesure de l'ampleur du mouvement qu'on a et la nécessité du parti de se rassembler rapidement parce qu'on a des vrais adversaires à combattre. Mais après ça, que ce soit le 13 février, le 14 mars, après-demain, je vais être là, puis je vais être prêt, puis s'il y a une course, je vais la gagner, puis voilà.
On vous entend beaucoup, justement. Entre les lignes, moi, je lis qu'on aimerait avoir un couronnement là, pour pouvoir passer le plus vite possible aux affaires importantes, c'est-à-dire pour vous combattre le PQ et la souveraineté. Quand vous parlez de vent, de dos, d'élan, est-ce que vous faites référence justement aux 200 jeunes qui vous ont appuyé aujourd'hui?
Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, ça, c'est un excellent exemple du mouvement. Puis oui, les jeunes ont un poids électoral important, mais ils ont un poids humain important aussi. On fait de la politique pour les jeunes. On fait pas de la politique pour les gens qui nous ont quittés. Alors, c'est sûr que de voir des jeunes de 20, 21, 22 ans qui décident de mettre leur nom dans une lettre ouverte pour soutenir un candidat au Parti libéral du Québec, est-ce qu'il y a un message plus fort puis plus porteur d'espoir que ça? Après le mois désastreux qu'on a vécu, moi, ça me remplit d'espoir, puis ce n'est que le début des nouveaux appuis.
Charles Milliard, vous êtes candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Oh, jour de la marmotte. Trois qualités que ça prend en 2026 pour faire de la politique et être tenu crédible de ce poste-là.
Ça prend de l'énergie, ça c'est sûr. Ça prend de l'intelligence émotionnelle. Je pense qu'il faut être capable de comprendre les positions des autres. Les Québécois sont tannés d'avoir des politiciens qui font juste s'envoyer promener ou s'invectiver par médias interposés. Puis ça prend des convictions. Ça faut croire en nos valeurs, faut croire en notre programme. Puis je vais me permettre d'en ajouter un quatrième. Ça prend comment je vous dirais ça? Ça prend une espèce de je ne sais quoi de connexion. Parce que la politique, c'est pas mathématique. Dans le fond, au final, c'est est-ce que les gens ont envie de toi, ont envie de te faire confiance, ont envie de te confier le Québec. C'est comme une alchimie qui est dure à expliquer. Puis ça, ben, tu l'as ou tu l'as pas. Puis au bout de ligne, c'est les Québécois qui décident.
Charles Milliard, on termine l'entrevue avec ceci. Est-ce qu'un de vos adversaires politiques, si vous êtes chef du PLQ, sera François Legault, chef de la CAQ, ou Simon-Jolin Barrette, chef de la CAQ?
Ah, mon Dieu, ben moi, je vais vous dire, les adversaires, on les choisit pas, on les affronte. Alors, je vais laisser la CAQ faire sa propre intendance, mais qu'importe ce sera qui, la CAQ va devoir défendre son bilan puis proposer des choses. Puis moi aussi, puis M. Plamondon, Mme Gazal, M. Duhem, j'ai vu que M. Duhem avait lancé sa campagne aujourd'hui. Mm-hmm. Ben moi, je l'ai lancé hier. Alors, j'ai une journée d'avance.
La reine politique est déjà commencée pour M. Milliard. Charles Milliard, ce fut un plaisir de vous parler. Merci infiniment pour votre temps aujourd'hui avec nous à Boulevard 101. Au plaisir de se reparler.
À la prochaine. Merci à vous deux.
Merci, au revoir. C'était Charles Milliard, candidat à la chefferie pour le Parti libéral. Je vais y aller d'une petite prédiction facile. Prochain chef du Parti libéral du Québec, je suis pas mal certain avec l'élan que les jeunes lui ont donné aujourd'hui. Puis il parle déjà comme un chef.
Oui, il a la pratique de la dernière course à la chefferie. J'ai pas été à lui demander parce que c'est encore en enquête. On veut savoir ce qui s'est passé. Mm-hmm. Mais si un jour on apprenait qu'il y avait eu...
Que c'était pas juste le fling-flang du gouvernement canadien, là, qui avait, ouais, du Parti libéral du Canada qui est arrivé à Québec.
Tu sais, qu'il y avait les du mots Québec, qui brûlent là, mes lèvres.
Ouais.
Je vais aller avec le fling-flang.
C'est ça.
Si jamais on apprenait un jour qu'il y avait eu fling-flang au sein du Parti libéral pour élire Pablo Rodriguez. Mais quelle honte pour le Québec. Mais félicitations de s'être présenté.
Ouais.
Moi, en ce moment, aujourd'hui, et ça peut changer, mm-hmm, pour toutes les raisons du monde, on ne connaît pas assez ce candidat-là, mais c'est clairement pas, quelqu'un qui a un ego surdimensionné en ce moment qui se représente. Parce que n'importe qui aurait fait manger de la...
Ben
avec
oui,
un ego surdimensionné,
en effet,
tu dis manger de la... Vous ne m'avez pas choisi. Il y a eu un fling-flang, c'est Pablo Rodriguez, vous ne m'avez pas défendu. Je ne me représente pas, je suis, mm-hmm, bien dans ma vie. Ça, ça augure bien dans la perspective que je peux avoir du contenant et non du contenu de Charmillard.
Non, tu as raison, parce que s'il est élu chef, et il y a de fortes chances, il va avoir comme premier mandat à gérer le caucus qui est présentement à l'Assemblée nationale, un caucus qui s'est tenu les coudes soudés avec Pablo Rodriguez pendant un mois de temps.
Oui, puis au-delà de ça, tu sais, je veux dire, c'est pas lui qui avait été élu, fait qu'il aurait pu dire... La politique, vous vous arrangerez tout seul si vous n'êtes pas capable de faire bien les choses et représenter comme il se doit le peuple.
T'sais. Exactement. Isabelle qui nous écrit, il a perdu parce que l'autre a triché en payant pour des votes. Je suis confiante pour lui. Ben, en effet, les enquêtes vont nous amener à nous le démontrer, peut-être, Isabelle, en effet. Mais une chose est sûre, c'est que présentement, les enquêtes sont sur la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez et non pas sur le Parti libéral. Ouais. Donc, c'est sûr que les textos de Browning, c'était pas le Parti libéral, c'était la campagne de Pablo Rodriguez. Les prêtres, non, c'était la campagne de Pablo Rodriguez. Donc, en effet, il y a ombre de ceci. Pierre-Luc nous écrit, Charles Milliard plus un référendum en vue, ça égale pour plusieurs comme moi d'être l'alignement des planètes parfaites pour voter libéral pour la seule fois de ma vie.
Ben, si c'est le cas, là, ben, ça démontre que le chef peut vraiment faire changer la vision qu'on peut avoir d'un parti. Encore là, comme tu dis, enquête qui vise la course à la chefferie de Pablo Rodriguez et non le parti. Mm-hmm. Si la gangrène est pognée dans le parti et non dans la course ou avec les gens proches de Pablo Rodriguez à ce moment-là, on va encore se buter à un problème.
Ouais.
La gangrène, là... Ça fait de la route.
Ah oui, ça fait de la route. Puis des organisations qui ramènent toujours le même monde. C'est pour ça que... J'ai la conviction que ça va être un couronnement parce que je pense que le Parti libéral en tant que tel veut rien savoir qu'un organisateur de Pablo Rodriguez remette les deux pieds dans cette course à la chefferie-là. Et là, t'es dans ceux qui veulent pas voir Milliard. Il y a du monde qui voulait absolument Rodriguez puis il y a du monde qui voulait absolument Blackburn. Mm-hmm. Je pense que ce mouvement-là va s'essouffler, justement.
Il y a la gangrène puis le fait que le monde se pogne, là, se chicane. C'est une chose. T'sais, la gangrène, c'est un problème fondamental. Mm-hmm. Le monde qui se pogne, c'est du monde qui sont pas capables de gérer... Un parti politique comme il se doit. C'est correct d'être en désaccord, d'avoir des débats. À un moment donné, il faut s'aligner en équipe. C'est comme ça qu'on gagne en politique. Alors ça, ce sera vraiment difficile à rallier, surtout quand tu es un des protagonistes qui se pognait avec l'autre gang. Là.
C'est ça.
Parce que Charles Milliard et Blackburn, leur équipe se pognait lors de la dernière
Blackburn s'est présenté à la dernière minute parce qu'il y avait des partisans qui étaient contre Charles Milliard.
C'est
ça. Donc en effet, il y aura cette unité-là à créer.
Au pire, il y aura du ménage.
Hein? Oui. Hey, ça réagit, c'est super intéressant. Fred qui nous écrit « Tout ce que je peux voir qui sera différent au PLQ et peut-être que Milliard qui semble plus hautain fera ses brownies au chocolat noir. » Vois-tu, c'est intéressant. C'est un autre point de vue. Fred a trouvé Charles Milliard hautain dans l'entrevue.
Moi, personnellement,
j'ai pas trouvé ça du tout. Je l'ai trouvé très terre à terre. Mais ça se peut fort bien là, que ça ait créé ça à Fred. Si jamais Fred, tu veux nous écrire pourquoi tu l'as trouvé hautain, ça serait très intéressant. David qui nous écrit « Je vais voter libéral pour la première fois, moi aussi. Impossible de voir du monde voter pour un parti corrompu comme les libéraux par peur d'un référendum qu'un autre auditeur ou auditrice nous écrit. »
Ça, je m'attendais à voir ce commentaire-là.
C'est ça, exactement. Alors, ça
rendu
va être
là,
à suivre.
Rendu là, tu votes contre un référendum. Rebienvenue dans les années 90-2000. On vote contre quelque chose et non pour quelque chose. C'est un autre commentaire qu'on reçoit.
Oui, c'est vrai ça. Puis c'est vrai que c'est triste de voter contre quelque chose au lieu de voter pour quelque chose. Une chose est sûre. C'est que Charles Milliard, dans l'entrevue avec nous, nous a dit « Moi, je fais pas de la politique pour le monde d'hier, je fais de la politique pour le monde de demain. » Ça, ça me parle beaucoup. Je sens Paul Saint-Pierre Plamondon beaucoup tourné vers l'avenir aussi, ne serait-ce qu'avec le projet de référendum « Veux pas ». T'as pas le choix de projeter le Québec dans 15-20 ans. Ça, c'est le genre de politicien qui me plaise.
Oui, il faut juste que les... bottines suivent les babines, parce que moi, je peux te dire, moi, là, hockey...
T'as entièrement raison.
Moi, là, hockey, je suis passionné. Je suis passionné.
C'est vrai, ça.
Tu vas voir, je vais devenir la référence en 6 mois. Tu sais, à un moment donné...
Tu ne deviendras pas référence?
Pas en 6 mois.
Hein? J'avais full confiance.
Je pourrais m'y mettre, ça prendrait une couple d'années.
OK, Caroline, devine. J'avais très confiance.
Merci pour ton support, indéfectible.
Et Pierre-Luc qui répond à l'auditeur qui dit « Ah, c'est triste, voter contre. » Il dit « Hey, on vote bien pour ce qu'on veut. » Ben, en effet, tu as le droit. Va mettre ton X où tu veux, mon ami.
Écoutez pas Denis Gravel puis allez voter. Là. Ça, c'est une chose importante.
Oui, ça, c'est important. Allez voter. Puis honnêtement, ça va être une élection. Victor, nous a parlé quoi de 200? C'est Marc-André Leclerc ce matin qui nous a parlé. On est à 260 jours là, de l'élection du 5 octobre.
Oui.
Si je ne m'abuse, 5 octobre 2026. Allez voter. Allez voter en grand nombre. Non, mais c'est vrai, ça va être une élection tellement importante parce que si le PQ passe majoritaire, veut pas, on se lance dans une campagne référendaire. Donc, Allez voter en grand nombre.
Faut
décider.
Que vous ayez votre mot à dire.
Ouais, décider de ce que va être le prochain 4 ans au Québec. Prenez-le en main.
J'avoue que ça vient avec beaucoup plus cette élection-ci qu'un parti. Il y a vraiment un parti, une idéologie oui. aussi très forte au sein de ce parti-là, puis il s'en cache pas. Moi, par contre, je lève mon chapeau. Qu'on soit en accord ou pas, on a clairement et noir sur blanc les intentions du parti politique. Est-ce que ça se fera en 4 ans? La réponse est bonne chance.
Exactement.
Si ça se fait en 4 ans, j'ai l'impression que ça va être un projet fling-flang.
Ouais, ben oui, mais tu sais, moi, j'étais tanné du PQ qui essayait de cacher qu'il était un parti souverainiste.
Ou qui s'entendait pas pour aller de l'avant avec cette idée-là. Clairement, là, Paul Saint-Pierre Plamondon prit les rênes, puis lui, il s'en va de l'avant avec cette idée-là, il le dit depuis toujours.
Puis oublie pas, Pascal Paradis, sur nos ondes, le dit 30 fois, ça va être dans le premier mandat. Oui. On lui a dit, Monsieur Paradis, vous n'aurez pas le droit de nous mentir. Sinon, on va vous attendre dans 4 ans parce qu'il va être élu dans Jean Talon. Là. Pascal Paradis fait un excellent travail en passant. Quelques autres réactions avant qu'on passe à la pause. Je suis une QS et je n'ai pas roulé des yeux pendant l'entrevue. Bravo, Monsieur Milliard. Très intéressant comme commentaire. Merci énormément. Et Steve qui nous mentionne, ils vont envoyer des autobus où vous pensez? Imaginez un référendum simultané, Québec et Alberta. C'est vrai! Le grand rassemblement, on vous aime, il faut où? En Alberta ou au Québec? Oui, ils vont le faire pour le pétrole puis l'argent.
On va avoir de la job, mon Jeff, on va avoir de la job.
Ah, mais c'est la beauté de la chose, on va pouvoir jaser politique en masse sur les ondes de Boulevard 101. Et parlant politique, on va retrouver un de nos chroniqueurs favoris, Lambert Drainville. Au retour de la pause, on va parler de cette entrevue-là avec Charles Milliard. Lambert a fait une entrevue avec Pierre Poilievre un salon de thé, voilà,
rose,
merci.
Comme la chambre de Barbie.
Exactement, on revient là-dessus, on a deux extraits super intéressants pour vous. Puis on va parler de la chronique de Mathieu Bock-Côté avec Lambert Drainville. Hey, c'est-tu vrai qu'Infoman, c'est de la propagande canadienne?
J'embarque pas là-dedans, je te l'ai dit.
Radio-Canada?
J'embarque pas là-dedans, je te l'ai dit.
Radio-Canada, ça le dit Canada! On parle de ceci après cette courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 102. Émission d'Angers sur Boulevard 102. Il est présentement 13h05 à la météo. On le rappelle, c'est moins 3 degrés aujourd'hui avec de la neige intermittente, mais pas nécessairement beaucoup d'accumulation, là. 2 à 3 cm. Demain, moins 1 averse de neige. Neige intermittente au puits avec 3 degrés pour vendredi et 4 degrés alternance de soleil et nuages pour samedi. Des températures très, très, très clémentes. Pour nous, en ce début du mois de janvier, ça fait énormément de bien. Boulevard 109, vous êtes vraiment les meilleurs auditeurs. Vous interagissez énormément dans notre programmation 100% parlé, où on parle beaucoup d'actualité. D'ailleurs, excellent texto ici. Quelqu'un qui dit « Il faut qu'il écoute Jean Charest en parlant de Charles Milliard. Il manque de talent d'orateur. Autrement, il va passer. » Donc, quelqu'un qui trouve qu'il doit s'améliorer dans ses entrevues au niveau de Charles Milliard. Bref, ce qui est intéressant pour M. Milliard, puis on va justement parler avec Lambert Drainville, Pascal, mais avant, je veux t'entendre là-dessus, c'est qu'il a laissé personne indifférent dans les 10 minutes non. qu'il a passé avec nous.
Une des entrevues les plus courtes qu'on a faites avec un politicien cette année, là, j'englobe ça en termes d'année scolaire, là, depuis septembre, parce que sinon, c'est un peu évident, qui effectivement va chercher beaucoup de commentaires. Je pense que les gens sont orphelins politiques, ils attendent, ils ont soif de quelqu'un d'autre en politique où il n'y aura pas de scandale, où on va avancer, qu'on a une voix. Est-ce que ça va être assez pour ramener des gens du côté du Parti libéral? Est-ce que ça va être assez pour convaincre des gens de voter libéral? Je pense que les oreilles sont ouvertes en ce moment à ça. Fait que tout le monde a un peu son mot à dire parce que ça leur laisse un mini-espoir de « Ah, oh, je vais peut-être être capable » de trancher sur le parti pour lequel je vais voter.
Oui, il y a une belle curiosité autour de Charles Milliard à l'heure actuelle. On va le rejoindre immédiatement. Lambert Drainville, vulgarisateur d'actualité politique sur les différents médias sociaux. Lambert, comment vas-tu? Bon début d'année 2026, mon ami.
Salut les amis Ghosts, très content de vous retrouver.
Ah, moi aussi je suis très content Lambert de te retrouver. On a eu la chance lundi matin parce que moi et Pascal avec Max Larouche on fait le matin en l'absence de Yannick Marceau. On a eu la chance de parler avec Farnell du Venezuela et de cet enlèvement de Nicolas Maduro lundi matin. Et là on te retrouve aujourd'hui. On le rappelle, vendredi ce sera le débat Lambert Drainville, Farnell, Morisset. Farnell est prêt, t'as pas idée.
Ouais, je me suis ennuyé là. On s'est écrit un petit peu durant le temps des fêtes. Ah. Il fallait se trouver le temps à aller manger bientôt, mais On a, je pense, deux horaires qu'on doit trouver une certaine façon de coordonner. Disons ça comme ça.
On a créé de la belle bromance à Boulevard 101
sérieux,
entre
oui,
Lambert,
sérieux, oui.
Drainville et Farnell-Morissette. C'était carrément ça.
Ah oui, j'aime ça. Sérieusement, oui. Écoute, on est rendu qu'on se voit quand même assez régulièrement là, quand il est à Montréal ou quand moi je suis à Québec. On s'entend vraiment bien, même si on idéologiquement, je pense qu'on n'est vraiment pas au même endroit.
Non.
Contrairement à ce qu'on se disait hors d'onde entre tes précédents collaborateurs, nous, le fait qu'on ne soit pas à la même place, je pense que ça nous a rapprochés. Moi, j'ai toujours bien du fun à m'asseoir et à discuter avec des gens qui sont complètement ailleurs que moi. Je trouve que ça donne des discussions plus enrichissantes et plus animées.
Quand c'est des discussions et non des arrachages de tête, des dévissages de coups, ouais. je trouve qu'en fait, c'est une belle démonstration de quelqu'un de brillant. C'est des gens qui sont, pour moi, plus intelligents que la moyenne en étant capables de faire ça. Malheureusement, en politique, c'est rare.
Ouais, c'est ça, okay. Ma tête ne passera plus dans le fond.
Ben, c'est ça, je la vois grossir dans l'écran tout à coup.
Ouais, c'est ça, il va falloir reculer l'ordi.
Ouais, ben, je viens d'appeler les techniciens pour qu'il y ait un deuxième écran à côté.
C'est bon.
C'est con. Hey, Lambert Drainville, on a interviewé Charles Milliard juste avant ton arrivée en ondes. Et justement, je fais un parallèle. Charles Milliard a dit ben, moi, j'ai hâte d'aller débattre avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon a des idées. Je suis pas en accord avec ses idées, mais il a des idées. Je le respecte. Comment tu as trouvé l'entrevue avec Charles Milliard? Moi, j'ai trouvé qu'il se positionne vraiment bien comme le futur chef du Parti libéral du Québec.
Ouais, ben tu vois, il parle un peu comme si c'était déjà dans la poche, hein? Puis c'est en grande partie déjà dans la poche, mais ça fait changement par rapport à sa première apparition à la course à la chefferie la dernière fois où c'était beaucoup plus serré. Devrait pas y avoir de très, très chaude lutte à ce niveau-là. Tu sais, la grande question, c'est un peu ce que Pascal soulevait juste en introduction par rapport aux orphelins politiques. Présentement, on a le sentiment là, que tu as beaucoup de gens, d'abord et avant tout, qui se tournent du côté du Parti québécois dans les sondages, dans une perspective de ben on est écœuré de la CAQ, puis on voit pas aucune autre alternative. Donc, le PQ, pour l'instant, a mon vote. Et avec tout ce qui se passe, évidemment, avec le Parti libéral qui en fonction de tous les scandales qui se sont passés avant elle. Il y a plusieurs personnes qui ne se voient pas retourner de leur côté. Et c'est là que va se poser la question pour la suite en ce qui concerne Charles Milliard, c'est que restera-t-il de tout ça? T'sais, puis les Québécois ont historiquement, malgré ce que disent chacune de nos plaques d'immatriculation, l'habitude d'avoir la mémoire courte politiquement, et de passer rapidement à autre chose. Alors, c'est un peu ça que je me demande comme question. Que restera-t-il de tout ce qui s'est passé avant les fêtes et à quel point ça aura un impact sur, disons, l'atmosphère et l'écosystème dans lequel Charles Milliard va devoir contrôler ou prendre les rênes de ce parti-là? Et moi, j'ai franchement l'impression que... Déjà, je trouve qu'il y a le bon casting, là, tu sais... Le plus gros problème avec Pablo quand il a été choisi, c'est qu'il cochait aucune des cases dont le Parti libéral a besoin pour redevenir un véhicule politique qui compétitionne pour gouverner. Je fais référence, bien sûr, au Québec francophone. Tu sais, Charles Milliard est un gars de Lévis, sa famille est du bas du fleuve, il habite en Estrie... c'est un gars qui va avoir beaucoup plus de facilité, selon moi, à connecter, ne serait-ce qu'au niveau de sa personnalité avec l'électorat francophone. Alors, moi, je pense que ça vient, qui va être mon sixth sense, là, je t'avais à te le donner, là, mon opinion à deux cents, là, c'est que je suis assez convaincu que ce gars-là va jouer les troubles fêtes en 2026. Et la variable, encore une fois, qu'on n'a pas dans le moment, c'est tous les résidus de ce qui s'est passé durant l'ère Pablo. Ouais. Quand restera-t-il? Et sera-t-il en mesure de compétitionner pour vraiment être élu? Ou il va devoir se contenter de se battre pour la place du meilleur deuxième?
Pour moi, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes. On a tenté d'avoir des réponses pendant notre entrevue avec M. Milliard il y a quelques minutes. Mais tu sais, en partant... deux courses à la chefferie. Si ça, bon, si on apprend qu'officiellement c'est dans le parti qu'il y a un problème, je comprends qu'on on enquête actuellement sur la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Mais si on se rend compte qu'il y a du tataouinage, tiens, disons-le, comme ça, dans le parti. C'est dur, même en étant qu'un nouveau chef réussisse à convaincre les gens que c'est correct dans le Parti libéral. Il n'y a pas encore du magouillage ou des choses comme ça. Fait que moi, j'ai peur qu'il se brûle parce que des candidats politiques de qualité, bien que je ne lui attribue pas tout de suite cette étiquette-là, je le connais pas assez, je le vois un peu pianoté depuis quelques années maintenant. J'apprécie, mais je me positionnerai pas. Ben, ça se peut que ça soit sa mort politique, même s'il n'a rien fait pour. Fait que ça, je trouvais ça un petit peu poche. Mais l'autre affaire, c'est, tu sais, de ramener un parti sur la ligne du travail d'équipe, de l'intégration, du travail de collaboration au sein du Parti libéral. Il y a tellement de fractions qui se sont créées à travers le temps. Depuis même Dominique Anglade, on en avait ajouté quand elle était à la tête du parti. Je me dis, ouf! Quel travail de maître. Puis toutes les parties vont pouvoir l'attaquer là-dessus. Est-ce que ce serait démagogue de faire ça, tu penses, Lambert, d'attaquer Charles Milliard, admettons qu'il devienne nouveau chef du Parti libéral au Québec, sur la division au sein même du parti, quand il vient juste d'arriver?
Ben, je pense pas qu'il va se faire attaquer là-dessus, tu sais, par les autres formations politiques. Je pense plutôt que c'est effectif. Ça a été le cas. C'est pour ça que Pablo est tombé. Et tous les articles du Journal de Montréal, on s'en est parlé tellement souvent, Jeff, ça venait pas de personne d'autre que de membres à l'interne du Parti libéral. Il y a personne d'autre que des gens associés au Parti libéral qui auraient eu ce genre d'informations-là et des gens qui, visiblement, avaient comme intention de ne pas voir Pablo à la tête de ce parti-là. Et force est d'admettre qu'ils ont réussi. Maintenant, comment ça va se traduire, cette dynamique-là, avec Charles Milliard possiblement comme chef, c'est très intéressant. C'est surtout un très, très gros enjeu pour M. Milliard à régler parce qu'on ne sait pas ça représente combien de personnes. Il va devoir être capable d'identifier c'est qui. Il va devoir être capable d'identifier à savoir est-ce qu'il veut les garder au sein du parti. C'est quoi leur rôle? Est-ce qu'il peut, tu sais, je veux dire, un militant libéral, je veux dire, à moins qu'il y ait quelque chose de grave, là, tu peux pas vraiment dire non, arrête de militer pour le parti, tu sais, fait que il y a beaucoup de questions qui se posent. Mm-hmm. Puis tu sais, bon, on parle de M. Milliard, il se présente bien, il paraît bien, c'est un francophone, il coche des cases, c'est très bien, mais on va revenir sur le plancher des vaches, messieurs, dames, éventuellement, là, justement, Pascal, tu parlais de travail d'équipe et tout ça, là, tu sais. Il y a beaucoup de grands principes et de grandes phrases là, quand tu écoutes ces entrevues de lancement de campagne. Ce qui va être intéressant pour moi à suivre, c'est qu'est-ce qu'il va proposer? Qu'est-ce qu'il va proposer de concret pour marquer une cassure avec le Parti libéral du Québec, qui est devenu au fil des années, on a l'impression, de plus en plus une genre de filiale du Parti libéral du Canada. Avec Pablo, c'était franchement évident, et un parti qui est réservé au West Island, à l'ouest de l'île de Montréal. Alors, quelles seront ses positions à M. Milliard au-delà de son discours, puis de son style, puis du fait qu'il peut aller chercher possiblement en tant que personne connectée plus facilement que l'électorat francophone? Quand on va rentrer dans le crunch de la patente, il va lui falloir 2, 3, 4 éléments, au niveau identitaire certainement, au niveau économique, qui vont venir marquer une cassure avec le Parti libéral, tel qu'on le connaît dans les dernières années, qui ressemble encore une fois de plus en plus au Parti libéral du Canada, et comme il l'a dit lui-même, va ramener le Parti libéral du Québec plus près de ce qu'était ce véhicule politique-là de l'époque de Bourassa.
En effet, tu as entièrement raison, Lambert Drainville. Lambert Drainville, j'ai regardé attentivement l'entrevue que tu as faite avec Pierre Poilievre dans un salon de thé. Premièrement, félicitations, mon chum, d'avoir amené Pierre Poilievre dans un salon de thé rose. J'ai trouvé ça.
Bien, félicitations drôle à Pierre Poilievre. Bien honnêtement, moi, j'y ai proposé ça à m'avouer. Son équipe m'a appelé. Ils m'ont dit qu'ils étaient de passage pour une tournée au Québec. Puis là, je fais OK. Fait que là, il était comme on serait intéressé à ce que tu t'assoies avec lui puis que vous ayez un vrai jasette. Fait que j'étais super content qu'il m'approche. Mais tu sais, moi, tu le sais, Jeff, je fais pas les choses.
Exactement. Tu fais les choses très colorées. C'est tout en ton honneur. Puis ça te permet, justement, c'était ma deuxième félicitation à ton égard. Fait que là, je suis rendu au troisième écran. Tu comprendras pour ta tête, ça serait. Mais la félicitation va dans le sens, c'est que tu es capable de mettre les politiciens dans une ambiance où après ça, tu vas chercher des excellentes réponses. Et des réponses souvent inédites ou des réponses qui sortent comme ça parce que les personnes sont dans une ambiance friendly avec Lambert Drainville.
Ben, c'est un peu ça le but, ben honnêtement. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes affaires sur les réseaux, c'est le ton que je voulais. C'est surtout le ton qui était l'emphase du concept, là, de dire, ben, je l'ai fait, ce job-là, on s'en parle à tous les jours. J'en ai fait des lignes de communication pour des ministres, pour placer un message, pour être stratégique, tout ça. Puis ça devient un petit peu lassant à la longue parce que tu as l'impression qu'ils disent jamais ce qui leur traverse l'esprit. Alors, quand j'ai quitté, ben, j'étais comme le format Radio-Can, tu sais, assis avec Patrice Roy, Sébastien Bovet, puis tout. C'est super important dans une société là, d'avoir des médias fiables, rigoureux, qui font le lien entre la population et la classe politique pour transmettre évidemment de l'information super fiable. Mais moi, j'étais comme, tu sais, il y a de moins en moins de gens qui les suivent, ces médias traditionnels-là. Comment est-ce que je peux parler de politique différemment, puis les mettre dans une atmosphère où est-ce qu'ils vont justement pas sentir qu'ils sont sur le hot seat, là, ce fameux seat-là que l'intervieweur essaie de les coincer. Puis moi, mon pari, c'est de dire, ben, écoute, en faisant les jokes, en parlant en apprenant à les connaître aussi comme être humain, comme personne, c'est qui ces êtres humains-là derrière les vestons-cravates, ben, je me dis que, anyway, que ce soit Patrice Roy ou que ce soit moi, s'ils veulent pas répondre à la question, Jeff, là,
comme ils vont sortir la ligne de com.
Ouais, exact. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent sauf la réponse. Alors, je me dis que s'ils sont confortables, ils sont à l'aise, ben, je mets les chances de mon côté pour peut-être avoir des réponses qui sortent des lignes de com. Puis avec Pierre Poilievre, que j'ai trouvé le fun, c'est que d'abord, il accepte de se prêter à l'exercice. Et les réponses très intéressantes qui ont sorti de ça aussi. Ouais.
Exactement. On présente deux extraits justement à nos auditeurs. On commence avec Pierre Poilievre qui va parler des valeurs traditionnelles au Québec. Lambert Drainville et Pascal CV, c'est un peu le grand malheur de Pierre Poilievre, hein? C'est d'avoir réussi à aller chercher le plus de votes dans l'histoire du Parti conservateur au Québec, le plus de votes au Canada, mais d'être encore le chef de l'opposition.
Ouais, puis j'en ai parlé de ça, ceux qui veulent aller voir la discussion complète, puis même sur j'ai sorti l'extrait sur mes différentes pages. Tu sais, permets-moi l'expression, mais j'ai dit Pierre Poilievre, est-ce que, tu sais, ça t'a-tu fait chier? Ça a dû te faire chier, tu sais. J'ai dit, mon gars, ça faisait des mois, t'avais la ligne d'arrivée, esprit, tout le monde te disait, t'es le prochain premier ministre, t'es dans la poche, Trudeau, esprit, le bateau prenait l'eau, il n'y a rien qui allait. Puis en dedans d'un mois, Chrystia Freeland démissionne, Trudeau s'en va, Trump embarque, parle du 51e État, Carney, qui est comme fait sur mesure pour l'espèce de contexte géopolitique qu'on vivait, qui arrive, j'ai dit, hey, as-tu été victime de la séquence politique la moins chanceuse de l'histoire de tout le Canada? Puis il avait l'air d'être pas mal d'accord avec
ouais,
moi.
C'est ça, c'est pas mal ça, là. Pascal, t'en penses quoi, toi, de Pierre Poilievre, justement? Est-ce qu'il a été victime de circonstances, de, je vais le dire comme ça, là, d'un amalgame de circonstances qui sont allées contre lui?
Oui et non. Oui, parce que, oui, est arrivé Donald Trump avec des tarifs économiques. Quand on a peur de quelque chose, un peuple est en situation d'un peu de panique. Puis là, c'était surtout les spectres, autant le petit citoyen qui vit au jour le jour que les entreprises, que bon, on a tendance à faire le syndrome de l'écureuil, on retourne d'où on vient. Fait que je pense que oui, effectivement, Pierre Poilievre a perdu à ce niveau-là dans le concours de circonstances. Mais il y a aussi la façon dont tu prends les devants dans cette situation-là. Et moi, j'ai parfois mis dans le panier hypothèse que c'était par grandeur politique qu'il a laissé la place à ce moment-là au Parti libéral, qui était déjà en place, de prendre les rênes de la situation et tout ça. Et j'ai eu des grands débats politiques avec des alliés là, qui aiment ça parler de ça. Puis pour eux, c'était pas ça, c'est qu'ils ont mal pris leur place. Entre autres, Antonine Iaccarini disait non, il a juste pas bien pris sa place. Il n'a pas pris l'opportunité de se faire valoir comme étant une possibilité claire et nette d'être un chef pour le Canada en matière économique aussi, puis en matière de négociation. Elle était catégorique là-dedans. J'ose croire qu'il y avait un petit peu de « Hey, c'est pas moi en ce moment le premier ministre. Je dois être non la personne qui tape dans le dos de Justin Trudeau, mais être un peu un allié parce que c'est tout le Canada en ce moment qui se bat. » J'espère qu'il y avait un peu de ça, mais il doit payer aussi pour sa position qui n'a pas été prise. Puis tu sais, peut-être qu'il va mieux s'en sortir que Mike Carney au final. Parce que si Mike Carney ne rend pas ce qu'il a promis en étant élu, t'es beaucoup plus devant le miroir, puis t'es beaucoup plus devant ton électorat, et ça peut être non payant à long terme.
Ouais, la caméra est braquée sur toi, en effet. Hey, Lambert, j'ai le goût de t'entendre là-dessus, parce que, Pascal, tu parles de ça, et j'ai pas le choix de penser à ce qui est arrivé en fin de semaine au Venezuela, avec la capture de Nicolas Maduro. Le premier à réagir au Canada, ça a été Pierre Poilievre. Puis Lambert, tu es un ancien, justement, directeur des communications. On a changé la table des communications du côté des conservateurs, puis on s'est dit qu'il faut interagir le plus rapidement possible pour prendre le plancher?
Je sais qu'ils ont changé leur des effectifs dans leur équipe de communication. Là, c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai pu m'entretenir avec lui. Pour ce qui est du Venezuela, moi, j'ai pas tellement été surpris de sa réponse. Des fois, je trouve qu'il est un peu raide. C'est ça qui est difficile avec la position d'un chef au Parti conservateur, c'est qu'il est tout le temps sur la clôture. Tu sais, tu prends le débat sur l'avortement, tu as ton espèce de droite religieuse dans l'Ouest à satisfaire, alors qu'au Québec, on est complètement ailleurs. Tu prends l'exemple de la pandémie, Pascal, c'était une position qui était impossible pour lui. Tu es dans une campagne électorale où tu dois critiquer le bilan du gouvernement en place depuis 8 ans. Et en même temps, si tu le critiques trop, en pleine guerre commerciale, t'as l'air du gars qui est pas Team Canada,
ben,
qui est pas équipe Canada.
Moi, je pense t'sais, que ça, c'est important.
Ça, c'est majeur. Puis c'est pour ça, quand je parlais de la séquence absolument malchanceuse, c'est vrai. De l'autre côté, maintenant, est-ce qu'il avait un travail à adapter son discours? Moi, je trouve que c'est un gars qui, puis on l'a vu tellement bien dans l'entretien que j'ai eu avec lui, qui gagne à être connu d'un point de vue humain. Jeff, je ne sais pas si tu as la deuxième clip.
Exactement,
pas loin.
J'allais vers là. Voici le côté humain que vous ne connaissez sûrement pas de Pierre Poilievre. Lambert Drainville, son trip sur Nick Suzuki qui nous dit 2 phrases en français en entrevue. Crème, on n'aura pas le choix de triper sur Pierre Poilievre.
Ben, je vais laisser les gens d'abord aller écouter l'entretien et se faire une tête là-dessus. Mais une chose est sûre, à tous ceux qui ne sont pas capables de le sentir, moi, j'ai plein de gens qui l'ont écouté et qui m'ont dit ben ça fait donc bien du bien de le voir avoir l'air d'une personne normale, démontrer de l'émotion, parler de sa famille. Hey, tabarouette, sa femme a vécu 10 ans à Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Son fils, il l'élève seulement en français. Écoute, dans l'entretien complet, il me disait qu'il va dans des rassemblements conservateurs, puis il n'y a personne qui peut parler à son fils parce qu'on est dans l'ouest du pays. Tout le monde parle anglais, puis son petit gars, il est là, puis il parle juste français. Son petit gars ne parle que français. Sa femme a été à Montréal pendant 10 ans. Veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il n'a pas dit ça dans la dernière campagne électorale?
En effet.
Écoute, au Québec, il y a de la misère à connecter avec les Québécois. Puis surtout qu'il est dans une situation où ce que le premier ministre en place présentement, s'il y a bien une aiguille, une roche dans son soulier pour... Bien, c'était vrai durant la campagne, puis ça se l'est depuis, bien honnêtement, c'est sa capacité justement à d'abord parler français, mais surtout à comprendre la spécificité québécoise. Et moi, là-dessus, je pense que, suivant mon entretien avec Pierre Poilievre, il y a une longueur d'avance sur Mark Carney à ce niveau-là. Et considérant les gains, les sérieux gains que les libéraux ont fait au Québec, possiblement ce qui leur a permis d'ailleurs de d'être élus, mais je pense, moi, qu'il y a un potentiel de croissance, peut-être pas gigantesque, mais certainement un potentiel de croissance ici au Québec. Puis, ben c'est plate, là, mais c'est comme tu l'as dit, il a fait un excellent score, puis ça n'a quand même pas été assez. Mm-hmm. Donc, il va devoir être en mesure de faire des petits gains à un paquet d'endroits, puis de se montrer sous cette lumière-là plus humaine, plus chaleureuse, de démontrer qu'il comprend, lui, qu'il parle bien français, c'est une valeur importante pour lui, le français, et la compréhension de la culture québécoise. Moi, je pense qu'il a tout à gagner, et je trouve que c'est une bonne idée de son équipe de communication de le faire faire des concepts peut-être plus podcast, plus chill, si vous me permettez l'expression. Et j'ai l'impression qu'on va le voir de plus en plus dans ce genre de scénario-là là, d'ici à au courant des prochains mois, des prochaines années.
Lambert Drainville, le temps file. Je veux juste t'entendre là-dessus avant de te laisser quitter parce que quand je dis ça, Pascal Sévé, elle dit « Non, 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 parle-moi pas de ça. Je veux rien entendre.
» Hey, bon segment, les gars. Ça fait plaisir de vous écouter.
Mathieu Bock-Côté a écrit aujourd'hui dans le journal « Infoman est un outil de propagande canadienne ». Jean-René Dufort est main dans la main avec Justin Trudeau. On met le drapeau du Canada en arrière. On finance de plus en plus Radio-Canada avec Mark Carney. Vive le Canada à Radio-Canada. T'en penses quoi? T'as écouté Infoman?
Mais j'en pense. C'est sûr que c'est un peu vrai. Je veux dire, tu regardes n'importe quel média, là. N'importe qui, là, qui écoute, qui lit, qui suit Radio-Can, la presse, le devoir. Radio-Can plus à gauche, le devoir plus à gauche, la presse plus à droite, Cogeco généralement centre-droit. Genre, on est tous capables de... Tu sais, les médias, puis c'est un peu dans le monde dans lequel on vit à un moment donné. La différence entre les créateurs de contenu comme moi, comme Farnell, puis les médias, c'est que les médias disent ne pas être biaisés, même s'ils le sont toujours un peu, versus nous autres que on dit, regardez, voici notre background, voici d'où on arrive, on a un léger biais, et on va essayer d'être le plus neutre possible. Alors oui, c'est sûr qu'il y a un certain biais. Maintenant, c'est-tu la fin du monde? Moi, j'ai trouvé ça excellent. Je ne suis pas fédéraliste dans le plancher, puis j'ai trouvé ça excellent, Infoman. Mais Pascal, sur le bye-bye, tenons-nous-en seulement au bye-bye. Là.
Vas-y.
2 minutes de sketch pour dire que Paul Saint-Pierre Plamondon vit dans un monde fantastique avec son idée de la souveraineté. 1 minute 30 pour traiter Éric Duhaime de loser perdu dans les rues de Québec. Et 10 secondes, donc 2 minutes pour PSPP, 1 minute 30 pour Éric Duhaime, 10 secondes sur Pablo Rodriguez et la crise du Parti libéral.
Oui, ça m'avait marqué. Puis là, je me suis dit, coudonc.
Pascal, je veux ton avis. Je veux ton avis, Pascal, là-dessus. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a pris le plus d'espace en 2025 en politique québécoise? PSPP, le Parti libéral et sa crise ou Éric Duhaime?
Ben, moi, je me suis déjà prononcée sur le bye-bye. Je trouvais que tout le monde avait été ridiculisé. En termes de temps, je ne l'ai pas calculé. Je trouve ça intéressant. C'est un argument que je mets sur la table si j'avais envie de m'obstiner avec vous, les gars. Mais comme j'ai dit, je reste avec mon petit popcorn puis je vous écoute.
Et donc, main plate, Pascal, c'est vrai.
Mais l'affaire... Il y en a qui m'ont même pas fait rire. Ouais, au niveau d'Éric Duhaime, moi, j'ai déjà travaillé au niveau de la radio dans la même station, dans le même habitacle et dans le même studio qu'Éric Duhaime. On partageait un micro à certains moments. Ça reste que je suis capable de le challenger et je me donne encore plus le droit de le faire pour ces raisons-là quand il vient en onde. C'était plate. Ouais. J'ai trouvé que c'était juste le ridiculiser.
Ah, mais c'était... Ouais, c'était... Vas-y.
Ensuite, j'aurais beaucoup aimé l'absurdité de la chose pour le Parti libéral. Je trouve qu'on visait pas assez, puis effectivement, c'était plus court. Tu sais, puis je pourrais les décortiquer comme ça. Je comprends que si on y va en termes de temps, je suis capable de dire, bon, c'est-tu parce qu'il a manqué d'inspiration ou parce que vraiment, il voulait taper sur la tête de certaines personnes en particulier?
La réponse qu'on me sort souvent, c'est ben c'est arrivé tellement tard dans l'année qu'ils n'ont pas eu le temps, tu sais, de...
Par rapport au Parti libéral. C'est ce que j'allais dire.
Mais à Infoman, ils ont réussi à faire un sketch là-dessus où ils sont dans une espèce d'habitacle de robot, là. Puis tabarouette, même Pablo, il s'est pointé dans le sketch. Fait que je me dis, si Infoman a réussi à faire un sketch complet de genre 3 minutes où Pablo lui-même fait une apparition, tu me feras pas à croire que le bye-bye, eux autres, auraient pas pu...
Non, en effet.
Est-ce que c'est parce que Infoman, chaque année, travaille là-dessus, puis ils ont déjà leur sketch pré-monté, envoyé de façon hebdomadaire? Il y a tellement de questions qui se posent. Je comprends pour le biais peut-être un petit peu biaisé chez des médias, surtout dans le privé. Au niveau du public, je vois une tendance. J'espère qu'on tombera pas dedans. Mais je vais toujours faire une différence entre un journaliste, par contre, et un animateur ou un chroniqueur ou un commentateur. Puis ça, je vais le faire casse-d'herbe toute ma vie. Puis je pense que les journalistes doivent se poser de sérieuses questions aussi sur leur façon d'en faire du journalisme. Et je me comprends là-dedans, même au niveau du commentaire.
Lambert Drainville, c'est toujours un bonheur de te jaser, mon chum. On se reparle vendredi avec Farnell Morissette dans le débat Drainville-Morissette. Un débat où ça s'arrache la tête tout le temps.
Ça se dévisse le coup.
Ah, j'affûte mes couteaux, puis on se parle vendredi.
Excellent. Salut, Lambert. Merci beaucoup pour cette excellente chronique. Lambert Drainville, si vous ne le suivez pas, suivez-le sur les différentes plateformes de médias sociaux. Il nous donne toujours des entrevues inédite et très intéressante. Pascal, on parle énormément du Venezuela, on parle énormément des États-Unis, du Groenland, de Cuba, de Colombie, mais il se passe quelque chose d'important en Iran présentement.
Oui, en Iran, il se passe quelque chose de grand parce que c'est sûr que sur la scène internationale, il faut en parler. On dit que ça fait partie, mais dans la sous-couche de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle révolution? Est-ce que c'est une tendance lourde des signaux d'alerte qu'on a avec la façon de gérer la situation du côté de l'Iran? Le Moyen-Orient est à ne jamais oublier dans ce genre de circonstances-là, surtout quand on parle de pétrole.
Exactement. Et on va parler avec un spécialiste de l'Université McGill immédiatement après la pause. Là-dessus, c'est M. Daniel Dweck qui est justement chargé de cours au département en sciences politiques à l'Université de McGill. Il y a énormément de manifestations et il y a également l'ombre encore des Américains au-dessus de l'Iran parce que Donald Trump a dit « Si vous ne traitez pas bien ces manifestants-là, je vais intervenir. Donc, on va parler de ceci après la pause avec M. Dweck. C'est bien ça, je le prononce bien?
Puis, quand tu parles de manifestation, disons, 2 morts et 30 blessés lors des affrontements au cours de la dernière manifestation, et ce sont les nouvelles qui sont tombées il y a 2 minutes exactement.
Alors, vous voyez, ça va pas très bien en Iran à l'heure actuelle, et c'est de ceci qu'on va parler. On va vous informer de cette situation-là après cette courte pause en jase sur Boulevard 102.1. 13h38 minutes sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. Après l'émission, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey Pinchot qui est de retour. Vous l'avez entendu dans l'open mic ce matin, une reprise de Marceau le soir à 18h. Demain matin, Jeff Fortin, Pascal CV et Max Larouche dans Marceau le matin parce que Marceau revient seulement lundi prochain. On vous le rappelle, allez vous abonner à notre page YouTube. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver les meilleurs podcasts, vous allez retrouver les pit stops, vous allez retrouver les caucus avec Antonine Iacarini qui revient la semaine prochaine. Vous allez retrouver les open mic également. Et parlant de podcasts, on va commencer l'enregistrement d'une nouvelle série de podcasts hors série qui vous sera présentée là, en cours de saison. Et présentement sur la chaîne YouTube, il y a les podcasts des grands événements avec Denis Gravel. Sommet des Amériques avec Agnès Maltais, c'était très bon également. On en parlait avant la pause, ça brasse énormément en Iran à l'heure actuelle. Plusieurs manifestations, les gens en ont contre le coût de la vie, pas juste au Québec, que le coût de la vie a augmenté contre le régime dictatorial qui est présent à l'heure actuelle là-bas. Et pour en parler avec nous, on parle avec Daniel Dweck, qui est à la Faculté de sciences politiques à l'Université de McGill. Monsieur Dweck, bon après-midi.
Merci beaucoup, et à vous aussi.
Oui. Est-ce que c'est surprenant ce qui se passe en Iran ou avec ce qui s'était produit en juin dernier, Israël et les États-Unis qui avaient bombardé des endroits stratégiques militaires? On pouvait s'attendre à ce que la population demande de plus en plus un changement de régime?
Oui, je pense que c'est sûr que la guerre de 12 jours au mois de juin à accélérer ce processus, mais il faudrait pas dire que ça l'aurait entamé, puisque depuis 2009, il y a eu des manifestations sur une échelle nationale à travers l'Iran, souvent avec des pauses, mais on a toujours pu constater qu'il y avait une majorité de la population qui ne voulait plus vivre avec ce régime. Donc, avec la crise économique aussi qui s'est produite récemment, on voit que les circonstances ont été propices pour ces manifestations-là.
Encore beaucoup de décès dans la dernière manifestation. On rapporte les chiffres dans les dernières heures, en fait. Ce qu'on apprend, ben, c'est des pertes, en fait, de civilisation assez importantes, surtout que ça se fait dans une bonne violence. On parle de 2 morts et 30 blessés dans les derniers affrontements dans une manifestation à Lord Ghent. Ça, c'est dans le sud-ouest de l'Iran. Est-ce qu'on peut parler plus grandement de cette situation-là? Parce que là, on parle des manifestations en Iran, mais au Moyen-Orient en ce moment, la position du Moyen-Orient face à tout ce qui se décline dans le monde, face à Donald Trump, face à Israël, comment est-ce qu'on voit les choses sous votre œil à vous?
Bien, l'Iran, depuis la révolution de 1979, avait, la révolution islamique avait adopté la position pour sa politique étrangère de confrontation avec leur slogan de mort aux États-Unis, mort à l'Israël. Ils ont investi des milliards de dollars dans un programme nucléaire, puis ils ont investi également beaucoup de milliards pendant des décennies pour des milices pro-iraniennes au Liban, en Syrie, en Irak, en Yémen, pour promouvoir cette politique étrangère. Puis là, depuis en fait la guerre entre Israël et le Hamas qui s'est déclenchée le 7 octobre 2023 avec l'assaut du Hamas au sud de l'Israël, l'Iran était le seul pays à déclarer ouvertement que c'était une bonne chose qu'il y avait cet assaut-là, de soutenir les missiles qui ont tiré le Hezbollah à partir du Liban envers Israël à partir du 8 octobre 2023, ce qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2024, qui a plus ou moins détruit le Hezbollah comme force militaire, et après ça, les confrontations directes avec l'Iran. Donc, il faut comprendre aussi le choix qu'ils ont pris les ayatollahs en Iran de privilégier la confrontation contre les États-Unis et l'Israël aux dépens vraiment de leur propre population, puisque ces milliards de dollars qu'ils auraient dépensés, ils auraient pu investir dans leur économie nationale, mm-hmm. dont on trouve en Iran maintenant non? le slogan des manifestants « Ni Liban, ni Gaza, nous sommes prêts à mourir uniquement pour l'Iran », qui veut dire justement que la population n'a aucun intérêt à dépenser leurs ressources ni de risquer leur vie pour des guerres étrangères, mais plutôt qu'ils demandent un gouvernement qui viendrait investir dans l'avenir du pays et de sa population.
Donc, comment la population peut s'y prendre dans un régime où il n'y a pas nécessairement de démocratie là, d'implanter avec des élections à date fixe? Comment qu'on peut faire pour tenter de changer les choses lorsqu'on sait que à chaque manifestation, présentement, il y a des morts et des blessés?
Oui, c'est justement la question. C'est à cause de ça que le régime a pu rester en vie. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs manifestations, des vagues à travers le pays, plusieurs fois depuis 2009, mais le régime n'est pas tombé jusqu'à date. C'est à cause, justement, des forces de sécurité, des forces de renseignement qui demeurent prêts à tirer sur les manifestants. Donc, il faut chercher un tournant là où il y aurait des soldats qui seraient plus prêt à tirer sur la population ou encore où les manifestants viendraient peut-être envahir des bases militaires ou peut-être il y aurait même des soldats qui changeraient de côté et qui seraient prêts à lutter contre le régime. Tout ça serait des signes qui pourraient entamer le déclin et qui pourraient faire tomber le régime. Jusqu'à date, on n'a pas vu ces signes-là, mais lorsqu'un régime tombe, ça arrive d'abord graduellement, puis tout d'un coup, subitement. Donc, ça pourrait avoir lieu, et j'ai déjà vu des rapports indiquer comme quoi le Ayatollah Khamenei, le chef d'État qui a 86 ans, serait prêt à monter sur un avion militaire pour s'enfuir à Moscou, comme l'a fait le dictateur syrien Bachar al-Assad en décembre 2024. C'est-à-dire, il ne le fait pas encore, mais si la situation viendrait détériorer, ça serait un potentiel étape qu'il serait prêt à prendre. Donc, il faut surveiller le tout de près parce que ça pourrait basculer bientôt.
Monsieur Daniel Dweck, qui est à la faculté en sciences politiques du côté de l'Université de McGill et spécialiste en termes de politique internationale. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous ce midi et au plaisir de se reparler.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir. Donc, une situation qui va être à suivre avec énormément d'attention, Pascal, en Iran. Puis, on le dit pour le Venezuela, la même chose pour la Syrie, l'Iran. Tous ces régimes-là qui sont gérés à présent par des dictatures, c'est pas nécessairement quand le dictateur part que le peuple est libéré. On le voit présentement au Venezuela, en Syrie, il y avait encore des attaques meurtrières qui se sont produites pas plus tard qu'hier. Donc, c'est du processus à très, très, très long terme. Mais déjà là, que la population soit dans les rues pour demander plus de liberté, plus d'autonomie, c'est déjà un pas en avant.
Absolument. Puis c'est vrai qu'en termes de stabilité puis de sécurité internationale, l'Iran joue un rôle clé au Moyen-Orient. Oui. Puis nous l'a bien expliqué, hein, c'est des tensions avec Israël, avec les États-Unis ou dans le Golfe Persique aussi qui sont à considérer. Puis ça, ça peut dégénérer rapidement. Puis c'est ça qu'il nous dit. Il dit, OK, il va falloir le suivre parce que ces risques-là sont à nos portes et c'est des répercussions mondiales. Conflits armés, terrorisme, sécurité maritime. Le Canada comme alliés de pays occidentaux, ben, est directement concerné dans une situation comme celle-là. Puis on l'a très bien dit, hein, tout ce qui est prolifération nucléaire, l'économie mondiale, l'inflation, la communauté aussi irano-canadienne. Mm-hmm. Il y a au Canada une importante diaspora iranienne. Ça compte là-dedans. Les droits de la personne, on fait quoi avec ça si on s'en vient qu'à se coltailler aussi? On va être dans deux façons de voir les choses totalement différentes. Puis surtout la cybersécurité, je veux dire, ils sont en avance sur beaucoup de choses. Pas autant qu'Israël, mais ils sont très, très, très avancés. Contrairement à nous, dont un expert ce matin nous traitait de cancre.
Ouais, exact.
Pas nous en studio, mais le Canada en entier.
Oui, le Canada en entier au niveau de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, bien, aux États-Unis, il y a justement là, la porte-parole au niveau de la Maison-Blanche qui a déclaré que c'est la porte-parole, c'est Caroline Leavitt, qui a déclaré « Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim en parlant du Venezuela et les États-Unis vont continuer à dicter leurs décisions. Nous disposons évidemment d'un effet de levier maximal sur les autorités par intérim. » Alors, ça va être une semaine très chaude dans le coin du pays, là, dans le coin du Venezuela. Il n'y a pas de doute là-dessus, surtout avec ce pétrolier russe là, qui a été saisi par les États-Unis.
Oui.
Donc, à suivre, il y a énormément de conflits à l'international. On en parle parce que ça a des répercussions énormes, la géopolitique, ici même au Canada, que ce soit sur notre économie ou la façon que le monde se passe à l'heure actuelle et la façon de vivre qui va être impactée un peu partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on en parle énormément. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a à suivre? Peut-être un petit peu plus près de chez nous?
Oui, mais c'est sûr que tout est interrelié souvent. Hein? Alors, c'est difficile de ne pas parler, entre autres, de Mark Carney qui va se rendre en Chine pour rencontrer Xi Jinping du 13 au 17 janvier. Une rencontre importante. On veut renforcer la collaboration entre les deux pays, mais surtout au niveau du commerce, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité internationale.
Ouais. Moi, Pascal, là, j'ai tellement de la difficulté avec ça. Puis là, c'est sûrement parce que je suis quelqu'un d'un petit peu trop, avec des valeurs un petit peu trop humaines. Mais j'ai de la misère à me boucher le nez et à me fermer les yeux sur les conditions des droits de l'homme, des droits de la femme, en disant « Bah, on va devenir un pays transactionnel. Ah! » Ça, j'ai un frisson qui me passe à la colonne vertébrale.
Oui, j'entends ton malaise, puis je le partage. Puis en même temps, tu sais, souvent on dit qu'il faut rester proche de nos ennemis pour être capable d'avoir un certain contrôle.
C'est vrai.
Pas sur l'ennemi en question, mais sur notre propre pays, au niveau de la politique internationale. Parce que si on n'a pas de discussion, les communications sont fermées, il n'y a pas d'avancée, puis il n'y a surtout pas d'information qui en ressort.
En effet, c'est un excellent point. L'éloignement qu'on a pris avec la Chine depuis 2017, celui que Victor Henriquez nous expliquait, n'est pas nécessairement positif. T'as
non, puis l'affaire, c'est que j'ai eu des fois des conversations avec Jean-François Lépine, hein, qui a été envoyé spécial en Chine.
Oui.
À plusieurs reprises, on se mettait à jaser de ça, lui et moi, et ce qu'il me disait, c'est d'abord et avant tout, les Chinois respectent ceux qui se tiennent. En Chine, si un premier ministre y va, il plie à tout. Et il accepte tout. Hein, des demandes chinoises, il est vu comme un faible. Donc, il n'y a plus de respect de la part, entre autres, de Xi Jinping. Et ça, Mark Carney devra faire attention. Parce que s'il veut des pourparlers d'égal à égal, il faut qu'il ait en tête cette façon de faire-là. Mm-hmm. On a coupé dans beaucoup de choses. On a coupé aussi dans tout ce qui est ambassade au niveau de la Chine. On a eu des conflits importants. Mais la Chine, son seul devoir depuis des années, c'est de devenir la plus grande puissance économique au monde.
Exactement.
On veut tout faire. On a pris du retard avec la pandémie. Donc, qu'est-ce qui va être discuté? On n'a pas eu un premier ministre canadien en sol chinois, du moins, pour discuter depuis 2017. C'est à des années-lumière de, de 2026. Là, quand on regarde
ben
ça,
oui.
Au niveau de la politique, c'est long, là. Et on a laissé beaucoup entre les mains des États-Unis. Peut-être que c'est là où on va aller rechercher un peu comme une couleuvre ce qu'on pourrait aller rechercher. Mais moi, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est l'énergie, l'agriculture, la sécurité internationale. Parfait, le commerce, on ne peut pas passer à côté.
Non, en effet.
L'énergie, ou attention, à quel prix? L'agriculture, nos terres, on n'a pas la même éthique d'agriculture que les Chinois peuvent avoir dans leur propre pays, donc pas la même vision.
T'as entièrement raison. Et on parle depuis le début de la semaine de sécurité alimentaire aussi, donc l'agriculture vient jouer un grand rôle.
Puis il y a eu des terres achetées par des étrangers à grand prix, juste pour avoir le contrôle de ces terres-là, ici au Canada. Moi, ça m'inquiète un peu. Et la sécurité, du moins, je reste sur mes gardes et je reste intéressée au dossier. Puis la sécurité internationale, c'est partout dans le monde où maintenant il y a des objets technologiques qui sont proscrits, qu'on n'a plus le droit d'avoir dans des pays en provenance de la Chine.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est une société, un gouvernement qui est hautement en avance au niveau information, récupération d'informations de systèmes technologiques. Il ne va pas falloir plier aux grandes dames de notre sécurité technologique. Ça veut dire qui vous observe, qui vous entend, qui prend vos informations. Parce qu'on parle d'une guerre économique en ce moment. Une guerre slash pétrolière, tu sais.
Oui, oui, oui.
Puis guerre étant un mot que moi, je choisis, il n'y a rien qui a été proclamé ça dans le monde. Mais attention, ça devient des affrontements technologiques. Là, on est dans la merde.
Ah oui, on est dans la merde parce qu'on est tellement en retard sur la Chine. Alors, et ça, c'est pas juste au niveau du Canada, c'est le monde occidental au grand complet.
Et il faut pas y avoir des œillères là-dessus en se disant, bah, c'est pas aujourd'hui. Fait que, pas vraiment besoin de travailler là-dessus. Là.
Non, ça se prépare
faut pas plier
petit pas par petit pas
à chaque demande.
Ce genre d'intervention-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre chose dans l'actualité?
Oui, mais là, si tu veux qu'on se rapproche un peu plus. Glissement à Rivière-Éternité. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça s'est passé il y a 2 ans et demi. 1er juillet 2023, il y a des pluies torrentielles qui ont fait glisser des parties d'un terrain sur une route. Et c'est la route qui menait au parc national du Fjord du Saguenay. Ça a causé 2 morts, 1 blessé grave. Tragédie. Et il y a eu un genre de jeu de coulisses en cours parce que, bon, la SAAQ avait plaidé que c'était un geste qui n'était pas considéré comme étant indemnisable parce que les victimes étaient sorties de leur voiture à ce moment-là. Mais on a réussi à prouver en cours que les victimes faisaient usage d'une automobile. Donc, c'était considéré maintenant comme un accident d'automobile et les 6 personnes en cause ont tous été proclamées victimes par le tribunal administratif du Québec. Ils vont pouvoir être indemnisés. C'est la bonne nouvelle.
C'est la très, très bonne nouvelle. Partisan du Canadien comme toi, Pascal.
Oui, oui, moi, oui.
Oui, toi. Oui. Le Canadien de retour à domicile ce soir, 19h30, face aux Flames de Calgary. Mais là, il y a un joueur qui va vivre énormément d'émotions. Et c'est le numéro 24 du Canadien de Montréal, Philippe Danault. Parce que c'est son retour à Montréal. Il est revenu avec l'équipe depuis le 23 décembre, mais l'équipe avait juste joué à l'étranger. Et Philippe Danault, il est très connu pour la course à la Coupe Stanley du Canadien en 2021, alors que le Canadien de Montréal venait d'éliminer les Golden Knights de Vegas en semi-finale. Il s'est présenté le jour de la Saint-Jean-Baptiste en français, s'il vous plaît, devant les médias, avec la pizza, puis il a dit « on s'en va gagner la Coupe Stanley ». Mais finalement, le Canadien a perdu en 5 contre le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est le retour d'un joueur que les gens adoraient à Montréal ce soir au Centre Bell. Philippe Danault, il va avoir énormément d'émotions. Match à 19h30 à suivre contre les Flames de Calgary. C'est le jeune Jacob Fowler, 21 ans, qui sera devant le filet. Donc, évidemment, demain matin, dans Marceau le matin, avec Max Larouche, on va...
On va faire un beau grand tour.
Ah, on va faire un beau grand tour. On va regarder en long et en large la performance de Jacob Fowler. Parce que moi, je continue à te le dire, c'est Jacob Fowler qui va être le gardien de but numéro 1 du Canadien jusqu'à la fin de l'année.
Je te le souhaite.
Alors que Max Larouche continue avec son Jacob Dobèche. Non, ça va être Jacob Fowler qui va être devant le filet du Canadien jusqu'à la fin de la saison. Pascal, c'est un bonheur d'avoir fait 6 heures de radio avec toi.
Oui, c'est un plaisir qui est partagé ben déjà oui. 6 heures.
On refait ça demain.
Oui, sans
à
faute.
À compter de 6 heures dans Marceau le matin, le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis Véro et le retour d'Audrey Pinchot. Passez une belle fin de journée sur nos ondes. À demain, guys.